Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au 14e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Love Quest, un RPG japonais sorti sur Super Famicom en 1995. La seule raison pourquoi ça a un rapport avec nous autres, c'est parce qu'on fait un épisode presque de Saint-Valentin aujourd'hui.
Yay!
les références sont de plus en plus obscures, sérieux.
Fais ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Voilà.
Je suis Mathieu Bonin, toujours accompagné de Danny Gravel.
Salut!
Et de Jean-François Laporte.
Salut!
Fait que, comment ça va les gars?
Numéro 1.
Ça va sur une fin de rhume, donc ça explique ma voix et les de temps en temps.
Bon, je m'excuse d'avoir posé la question, c'est complètement intéressant. Fait, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, Danny?
Non, cette semaine, mais comme j'ai dit, j'ai décidé d'être tanné d'être en santé. Hein, j'étais tanné, c'était temps d'avoir un bon rhume. Rien de grave, là, je me plaindrai pas. C'est juste pour expliquer la voix puis le qui va avec. Sinon, j'ai rejoué. Ben c'est ça, j'avais comme pas le cerveau pour me concentrer sur quelque chose de compliqué, fait que j'ai rejoué à Star Wars The Old Republic. Mm-hmm. Ben, ça demande pas vraiment d'être concentré. Ça, je suis l'histoire. J'ai fini mon premier personnage, l'histoire du premier personnage que j'avais commencé il y a de cela longtemps.
Dans une galaxie très lointaine.
Dans une galaxie très lointaine, oui, c'est ça. Mon set Sorcerer là, qui pige
les éclairs,
le bis.
Les éclairs, bis. N'a pas ça, c'est le Sandboy.
Ça s'en vient.
Ah, okay.
Non, fait que ça a été quand même intéressant. J'ai recommencé un petit peu à ça. Commencé une partie de Final Fantasy IV aussi avec ma blonde. Notre mode coop, là, où est-ce qu'on on joue en se partageant les bonhommes sur les manettes.
Ça ne regarde pas, ça.
Sinon, je joue un petit peu Hearthstone, surtout avant la fin de janvier. Là, j'ai obtenu un petit record personnel. Je me suis rendu rang 9. Puis. Ça impressionne personne, mais c'est correct. Moi, ça m'a fait du bien à moi. C'est quand même le top 7% selon Blizzard, qui donne à la fin de chaque saison le pourcentage que tu sais. C'est que je suis comme, ah, coudonc, je ne dois pas être si mauvais. Sinon, j'ai joué à Link to the Past. Link to the Past.
The Past.
Ouais, Link to the Past.
Link to the Base.
C'est un hack rom de Zelda qui pêche. Non. De Zelda qui pêche, pas de Link.
C'est ça. Bon, ça va du 8-mail.
Link to the Past au Game Boy Advance que je m'étais pogné l'autre fois en allant à Québec. Puis je me suis rendu compte que, Colin, que c'est pas long un jeu de Zelda quand tu connais par cœur les donjons. Hein. Il y a ça. Mm-hmm. Sinon, je cherchais quelque chose à jouer sur mon téléphone. Des fois, écraser sur un divan, c'est agréable. Fait que je me suis pogné Game Dev Story.
Yes.
J'ai parti le jeu. Puis j'ai profité du fait qu'avec Google, tu peux te faire rembourser rapidement. Pas parce que c'est un bon jeu, là. Mm-hmm. C'est vraiment un bon jeu. Je l'ai reparti, puis j'avais beaucoup joué dans le temps que j'avais mon iPhone. C'est pour ça qu'il a fallu que je le repaye, le réachète. Puis j'ai fait comme non. C'est pas vrai que je vais recommencer encore ce jeu-là. J'ai joué beaucoup dans le temps, puis je me voyais pas rejouer encore avec le même. Tu sais, c'est le genre de jeu où est-ce qu'il faut que tu te logues aux quelques heures pour refaire une coupe d'action, puis tout ça, souvent, là, puis... Non?
Game Dev Story? Non, c'est en temps réel. Hey, t'as vraiment pas joué?
Ben, j'ai joué il y a longtemps.
OK, d'accord.
Mais j'ai pas joué dernièrement, puis j'ai décidé que ça me tentait pas vraiment non plus de recommencer, puis de réapprendre le jeu. J'ai dit, tiens, ça a été le fun, mais je repars pas. On fait autre chose.
Finalement, t'as pas joué sur ton téléphone?
Fait que j'ai pas joué sur mon téléphone.
Voilà.
Mais j'ai recommencé ma game de Pokémon X, par exemple. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a des promos à tous les mois. Est-ce que maintenant, tu peux avoir chez EB Games un Pokémon mythique, légendaire, machin, en promotion. Puis ce mois-ci, c'est Mew, le premier Pokémon légendaire. Fait que j'ai décidé d'aller me chercher un code pour ça. Ça m'a donné le goût de rejouer à Pokémon. Fait que j'ai quand même... j'ai décidé de reprendre ma game. Puis là, j'avais comme 45 heures de fête dans mon ancienne game. Puis je me suis rendu compte que j'étais complètement perdu. Fait que j'ai décidé de repartir à zéro. Fait qu'on délite, on repart en neuf.
Ouais, c'est pas 45 heures qu'il faut que... C'est pas important là, de perdre 45 heures de gameplay. Là.
Non.
Pour Pokémon, c'est correct. Pour Game Dev, on le fera pas. Mais...
J'ai mis 5 minutes, me suis fait rembourser.
Ouais, c'est ça. Mais dans les faits, non. Moi, c'est pas mon genre de faire comme « Oh non, 45 heures! » C'est un jeu. Là. C'est fait pour donner du plaisir le temps que je joue avec. Là, puis c'est ça. Fait que j'ai recommencé, puis possiblement qu'à la fin...
On la laisse aller, celle-là?
On la laisse aller.
OK, c'est bon.
Pas de commentaire.
J'allais dire que possiblement qu'à la fin de la promo, là, parce que c'est pour tout le mois de février, là, il est possible que j'ai un code de trop à suivre, peut-être pour des gens qui le demanderont. Sinon, on a commis juste une semaine entre nos deux enregistrements, là, question de vie... de vie réelle, puis fait que ça donne moins le temps de jouer à d'autres choses. Ça ressemble à ça, ma semaine. Sinon, je fais quelques petits suivis. Là.
Monsieur Justin J.P. Trudeau.
Just watch me.
En fait, pas de Trudeau Watch cette semaine. Rien qui a bougé. Pas de nouvelles promesses ni d'un côté ni de l'autre. Je me suis dit peut-être que je pourrais regarder pour faire un couillard Watch. Puis là, ben, j'ai trouvé un site qui fait le même principe un peu là, avec les barres de progression puis tout ça sur le site de l'Université Laval. Commencer à regarder les promesses tenues, puis... j'ai vraiment rien trouvé qui méritait de donner un level up au gouvernement Couillard. Sérieusement, là, je le félicite crissement pas d'avoir tenu sa promesse de faire des coupures de 1,3 milliard en deux ans. Fait que tant pis, je vais continuer de féliciter notre premier ministre canadien, là, ce qui est plutôt étrange quand on me connaît un peu, mais c'est ça.
On sent de l'aigreur dans la voix de Danny ici.
J'ai un petit nouveau segment. J'ai reçu cette semaine du hate mail directement.
Oh! Oh yes, wait a minute, Mr. Postman! Je m'ennuie de Kevin Costner avec le film de Postman.
Ouais, j'ai décidé d'essayer autre chose. mon ami Guillaume
oui.
m'a directement appelé. Fait que mon hate mail, je l'ai reçu téléphonique pendant que j'ai épluché les patates.
D'accord.
Pour me dire, hey, votre maudit sifflet de punition, là. Y a-tu moyen de baisser ça de moitié? Il dit, je vous écoute dans mon char, dans le tapis, puis c'est le fun. Je vous ai comme si vous étiez avec moi dans l'auto, mais chaque fois qu'il y a le coup de sifflet, j'ai l'impression que mes speakers vont péter.
Alors, punition à Guillaume?
Non, punition à nous. j'avoue que le son est un peu fort. Les sons 8 bits, des fois, ils torchent un peu. Fait qu'à l'avenir, il sera moins fort. Celui-là était celui qui était fort.
Ouais, c'est ça. Ben, pour tout le reste de l'épisode, en dur. Fait que...
Sauf si je l'ai fait, je l'ai baissé déjà.
Ah, OK.
Voilà. Il m'a aussi donné un peu de marde par rapport à mes sous-entendus là, sur Seti at Home là, en me disant qu'il avait participé. Puis j'ai dit, ben, je sais, c'est pour ça que j'ai pensé d'en parler. Ça a l'air qu'il aurait même participé à une des découvertes. Tout ça, là, je suis allé voir sur le site parce qu'il me disait, si tu vas voir sur le site, je suis sûr que tu peux le trouver. Puis j'ai rien trouvé. Donc, tout ce que j'ai à rajouter, c'est... Voilà pour ce que moi, j'ai fait cette semaine.
Tabarnak, c'était long. Hein? T'as joué à Shadowrun cette semaine aussi?
Non, j'en ai pas parlé non plus.
Ah, OK, d'accord, excusez. Fait que moi, cette semaine, ben comme on dit, on a eu très, très peu de temps ben, par rapport à d'habitude dans tes deux podcasts. Le seul jeu que j'ai presque joué, c'est Z-Type, le jeu de typing en HTML5 qu'on peut jouer directement, soit sur le téléphone ou sur un navigateur. J'ai fait deux runs, fait que j'ai joué genre 10 minutes. Puis, j'ai presque fait quelque chose de gaming related. J'ai été voir Steve de Two Players Mode. J'ai jasé avec. C'était ça.
Non, mais c'est bon quand même.
Ça compte, ça compte.
Ça compte. Alright, good. Ben, c'est ça. Puis toi, Jeff?
Cool. Ouais, ben, moi, j'ai fait du gaming quand même, j'ai eu le temps.
Ah, okay.
Étonnamment, c'est ce que c'est vraiment un week-end de maladie à la maison. Mais on passe du temps dans le salon à gamer. Ça a tombé que tout le monde était malade la fin de semaine de la bêta de Division, en fait, qui était ouverte à tout le monde. J'ai maxé le niveau maximum qu'on pouvait faire. J'ai pas en fait tout le contenu qu'on peut faire dans The Division. On en parlera peut-être un jour quand il sera sorti, mais c'était excellent. Je pense qu'il va y avoir une autre bêta ouverte à tous. Fait que ceux qui ont la chance d'essayer, allez-y. Il y avait beaucoup de choses qui ont changé et qui ont été corrigées au niveau des bugs.
C'est vrai, j'avais mes clés et Xbox et PC, puis j'ai fuck all été touché à ça. J'ai reçu des clés, je vais pouvoir en parler, en fait, selon les NDA, là, j'ai pas regardé le détail, mais j'ai reçu ma clé pour Homefront Revolution. Puis j'ai reçu une clé pour le bêta aussi de Fable Legends.
Yeah.
Sauf que ça, je pense que c'était comme ongoing. Fait que ça, je vais pouvoir l'essayer éventuellement. Fait quoi?
Mais tu sais, la méthode de Division, je me suis embarqué dans ça avec dans les commentaires de toi, Matt, là, qui avait joué au Alpha sur Xbox, qui disait que c'était vraiment, tu sais, on tirait des chiffres finalement, là, c'est très très RPG-esque. Mais ça m'a pas tant dérangé que ça.
Mm-hmm.
À part le fait qu'on voit les chiffres, c'est très très proche de Destiny au niveau du gameplay quand même. Fait que
non, c'est pas, ça, je suis pas.
Ça m'a pas dépaysé.
Ben, je me rappelle quand on avait parlé, effectivement, il y avait un côté très très numérique, mais dans un jeu qui est militaire, moderne, ça me gosse toujours un peu de deadshotter quelqu'un 10 fois pour qu'il tombe. Fait que c'est juste ça, mais sinon j'ai eu du plaisir, mais ça, il y a comme quelque chose, puis tu sais, je le sais là, au niveau de gameplay design, puis des choix comme ça, j'ai aucun problème avec ça, mais on dirait que c'est difficile de faire un headshot, fait qu'il me semble que t'es supposé être récompensé, puis je trouve
plus,
toujours
plus
que c'est...
Plus que tu l'es.
Ouais, c'est ça, puis...
Parce qu'il y a quand même des jeux qui le font bien, là, j'oublie le nom, c'est niaiseux, là, j'allais sur le bout de la langue, le jeu au style, il y avait au PSP, puis au PS3 aussi, je pense, là, le genre de RPG tactique, où est-ce que t'as des armes? Bref, je reviendrai avec le nom m'amener là. Ou est-ce que si tu fais des headshots, justement, les gens ils meurent plus vite là.
Pas ce genre de Valkyria Chronicles.
Ouais, je pense que c'est ça.
Ouais, okay.
Parce que ça, il y avait ça de bien que si tu visais la tête, ben ton headshot faisait un headshot.
Mais dans Division aussi là, tu fais beaucoup plus de dégâts quand tu pognes la tête là.
Mais ça prend quand même.
Mais c'est ça, il y a comme il y a tellement des systèmes de défense, des trucs comme ça. Bref, tu restes dans un RPG, même si t'es dans un gameplay qui est très très action based. Ouais. Ça passe mieux mettons quand puis en fait, ça m'a gossé pareil dans Gears of War, là. Mais ça passe mieux quand c'est un hostie de grosse bébite extraterrestre weird que là, tu y poivres la tête pendant 5 minutes avec. Bon, ok.
Dis, elle a des gros os.
Ouais, c'est le suspension of disbelief.
Exact. Tandis que là, quand c'est un looter, là, c'est un hobo dans la rue à New York, puis que tu y vides 3 chargeurs dans la gueule avant qu'il tombe, I get it, comme je disais, là. Gameplay-wise, je le comprends, ouais. mais ça me déconne.
Ça te sort du jeu un peu.
Ouais, beaucoup.
Ça reste le jeu super intéressant. Là. Les missions sont super le fun, surtout quand on était à plusieurs. Le monde est beau, ça n'a aucun bon sens. Le détail, le souci du détail à travers tout le jeu est écœurant. Mais mention spéciale au Dark Zone, où c'est free-for-all PVP, où tu vas aller looter du meilleur gear. Tu as plus de chances d'avoir les meilleurs drops dans la Dark Zone, mais où tous les joueurs, dès que tu loot dans Dark Zone, tu as un petit sac qui apparaît dans ton dos jaune avec un symbole radioactif, comme quoi c'est contaminé. Fait que quand tu vois un joueur qui a ça, c'est parce qu'il a looté quelque chose.
Fait que tu peux y faire la peau.
Fait que tu peux le tuer, puis le prendre, puis partir avec. Puis tu dois l'extraire par hélicoptère, puis ça prend une minute d'attente à protéger ton hélicoptère. Fait que là, c'est immanquable. À la fin, là, s'il arrivait d'autres joueurs, ben souvent on se rassemblait à plusieurs joueurs qu'on se connaît pas, puis on veut protéger l'hélicoptère, on a tous des sacs. S'il y en a un qui n'a pas de sac, tout le monde le gagne.
T'as-tu Arnold qui dit Get to the chopper!
Get to the chopper! Mais sinon, The Division, si ça revient en bêta, avant que ça sorte au mois de mars, ça c'est excellent. Sinon, à part de ça, mon dick est toujours coincé dans Duelist. depuis le dernier podcast, en fait.
Faut vraiment que j'aille checker ça.
Mais sérieux, allez l'essayer, c'est gratuit. C'est une formule. Mon dick. On arrange ça dans tout après l'enregistrement. Mais
on peut prendre une pause, les gars, si vous voulez.
À l'image de Duelist, c'est aussi gratuit.
C'est un joke-là ou ton.
Les deux.
Les deux. Non, mais après, c'est...
Focus.
Rigueur. Non, c'est une formule qui est similaire à Hearthstone. Fait que Danny, je suis sûr que c'est quelque chose que tu vas aimer comme jeu.
Oui.
Puis c'est un genre de card game, mais au lieu de jouer juste des cartes deviennent des petites créatures. Puis ça a un look pixel art incroyable. Les graphiques sont vraiment beaux. Puis t'as un petit côté là, stratégique où tu dois te déplacer sur un quadrillé. Il y a un petit peu Hero Academy, un petit jeu mobile qui ressemble à ça sur iOS Android.
Okay. Moi, ça m'a fait penser visuellement sur le coup, genre un petit peu Heroes of Might and Magic. Là,
un petit peu.
La griffe de côté. Ben,
dites toutes des choses que j'aime pas.
Des buzzwords. Ouais.
Mais pour vrai, Duelist, c'est excellent. Puis il y a un système de ladder, pareil comme à Hearthstone, où tu peux compétitionner. J'ai pas joué contre d'autres joueurs encore. Je pense pas que je suis encore assez ferré pour le faire, mais c'est excellent. Fait que checker ça. Sinon, dans les sorties à venir, intéressantes qui s'en viennent, ma liste est toujours non exhaustive des sorties à venir.
Oh, félicitations.
Je me suis pratiqué dans le char de ça. Donc, il y a Dying Light, The Following Expansion. Dying Light, The Following, qui est l'expansion, en fait, sur PS4, Windows et Xbox One, qui est l'expansion payante, comme un jeu complet, dans le fond, qui va être une expansion à le Dying Light original.
J'ai tout compris.
Dying Light, qui est le jeu de zombies, là, parcours-esque zombie, qui est un super bon jeu, super intéressant. Sauf que... Bon, il y en a qui est un petit peu hésitant, mais que l'expansion, il faut avoir le jeu original et l'expansion souvent à 59$. Mais ça a l'air que ça amène beaucoup, beaucoup de contenu, puis c'est quasiment c'est un jeu complet qui se rajoute.
Mais qui demande d'avoir le jeu.
Mais qui demande d'avoir le jeu, je pense. Mais tout le monde l'attend avec impatience, il semblerait que ce soit intéressant. On s'en reparlera si je finis par finir Dying Light. Street Fighter V, sur aussi PlayStation 4 et Windows PC, qui sort bientôt. Donc, on est des grands fans, chez moi et toi, dans Matt de... Fighting Game, on suit Fighter 5. Il va être le premier avec une narrative, vraiment une histoire là, dans un Street Fighter.
J'ai tellement pas suivi le développement de SF5. Je sais qu'en plus, ils sont très actifs, ils en parlent beaucoup, puis j'ai fuck all suivi. Ben, j'ai hâte de voir, justement, mais que je puisse mettre la main dessus.
Et puis, il y a des nouveaux personnages qui ont l'air intéressants aussi. Là. Au niveau au 3DS, Fire Emblem Fates, qui s'en vient, qui est deux jeux. Fait que deux versions différentes. Il y en a un de couverture bleue puis l'autre rouge. Puis c'est deux histoires tellement différentes avec des personnages différents, mais qui se passent dans le même univers. Ben, tu peux choisir, dans le fond, pour quel côté tu vas.
Donc, plus comme Zelda Oracle of Ages Seasons que comme Pokémon, mettons.
Ouais, c'est
en
ça.
En termes de deux versions.
Exactement.
Là.
C'est bon, la comparaison est intéressante.
Ouais. Et c'est bon, dernier jeu qui va sortir bientôt, il y a le Far Cry Primal. Le nouveau Far Cry qui s'en vient, où cette fois, au lieu d'être sur une île ou au Tibet, on est à l'âge de pierre.
Bref, ça n'a aucun crise de rapport avec Far Cry, mais c'est open world.
C'est open world, on va se battre contre des mammouths et des tigres dans le sabre, et c'est ça. Et ça m'a sorti intéressante qui va être sortie en fait, la veille où le podcast va être mis en ligne, mais il y a Deadpool au cinéma.
Yes!
Fait que, j'ai vu ce matin, il y a des reviews qui ont commencé à sortir, j'ai pas lu les reviews parce que je veux pas rien me spoiler, mais le message général a de l'air d'être que c'est excellent quand même.
Le marketing est... spot on, moi, c'est magnifique.
Écoute, le bout qui m'a le plus fait triper du marketing, c'est quand il a commencé à avoir des pubs qui avaient l'air d'une comédie romantique, tu sais.
Yes.
Puis là, tu voyais vraiment, j'ai vu passer sur Reddit du monde qui disait, là, comme le dude qui dit, à quel point c'est vrai, c'est Reddit, là, mais mettons que c'est vrai, c'est très drôle. La blonde qui texte, hey, check, on va aller voir ce film-là à Saint-Valentin, puis yeah.
Mais je sais pas si c'était officiel comme poster, mais j'ai vu un poster sur Internet où tu voyais Deadpool avec Harley Quinn de. de Suicide Squad. J'ai vu passer le... Fait que comme les deux franchises, mais qui crossover, c'est comme Deadpool qui dit c'est un film d'amour, mais avec Harley Quinn, puis ils font comme un cœur avec une main dans le milieu.
pas l'impression que c'est officiel.
Ça doit pas être officiel, mais l'image était quand même... c'est quand même bon.
Ah non, ça va être... j'ai hâte de voir ce film-là.
Alors, dans l'actualité, on apprenait cette semaine que Toyota mettait fin à la sous-marque Sion. Sion était une marque secondaire de Toyota en Amérique qui visait surtout les jeunes. Et il est bien précisé, parce qu'il serait dur de vous en vouloir de ne pas savoir c'était quoi, Sion. Le tout dernier modèle, le CHR, qui a été annoncé au LA Auto Show l'an dernier, sera distribué sous le nom de Toyota finalement, parce qu'on s'entend sans même maudite affaire. Malgré tout, au Canada, le 2 clients sur 3 de Sion n'avaient jamais eu de produit Toyota auparavant, en faisant donc des nouveaux clients et prouvant à un certain niveau le succès de l'initiative. Le plus gros problème auquel Sion a dû faire face est le fait que le nom de marque était plus souvent qu'autrement entendu dans la phrase « et si on achetait autre chose à la place? » On commence avec des jokes de mon oncle. On a eu droit à un communiqué de presse de BlackBerry annonçant la mise à pied d'environ 200 employés à travers ses bureaux du Canada et de la Floride.
Je suis surpris qu'il reste encore 200 employés.
Ben, en plus, quand on compare le Canada et la Floride... En tout cas, c'est un état un peu pays. Là, mais en tout cas. Évidemment, ce type d'annonce de la part de l'ancien géant de l'informatique mobile ne surprend plus personne, mais il semblerait quand même que BlackBerry tente de minimiser les dommages. Le site de nouvelles technologiques canadien Mobile Syrup a entendu à travers plusieurs de ses sources que le nombre de personnes congédiées serait plutôt autour de 1000, avec un focus principalement sur les équipes qui travaillaient sur BlackBerry 10, leur nouveau système d'exploitation, et l'équipe qui appelle Device, qui développait les appareils. L'erreur est pardonnable, par contre, la confusion, parce que, à ce que je comprends, ils ont tout simplement inversé le nombre d'employés congédiés avec le nombre d'utilisateurs actifs d'appareils BlackBerry. Voilà. Sur le site La Verge, bien sûr, on apprenait que le iPad Pro a vendu plus d'unités que la Surface Pro 3 de Microsoft. Encore une fois, une nouvelle aussi surprenante que le taux d'humidité élevé de l'eau, hein, parce qu'à un moment donné, on en revient. Et ça fait déjà beaucoup trop longtemps qu'on en parle. Voilà. Fait que, lâchez pas. Payer au-dessus de 1000$ pour une tablette qui sera désuète dans le temps que ça prend pour faire cuire un repas Michelina, c'est beau à voir. Connaissez-vous, en fait, c'est sûr que Danny connaît, connaissez-vous Benson Leong?
Ah oui, j'ai jasé avec.
Mais voilà, c'est un ingénieur de l'équipe Pixel chez Google qui, tel un inquisiteur du protocole USB, a décidé de tester chaque maudit fil USB-C vers USB-A disponible sur le marché, incluant tous les maudits scraps disponibles sur eBay, AliExpress ou même vendus par le commis du dépanneur qui réussit à peine à détacher son regard de son sel pour te facturer le produit cheap en question. Mais sa croisade s'est vue ralentie par un ennemi de taille. Je nomme le SurgeTech 3M USB 3.1 Type C 2 Standard Type A. Ce fameux fil est tellement mal fait, avec des soudures incorrectes, qu'il a fait frire tout l'équipement de test de M. Leong, incluant son ordinateur.
Ouais, son mais pour vrai, je dis que j'ai genre avec, mais c'est vrai, quand j'ai acheté mon nouveau téléphone, mon Nexus 6P, je cherchais un fil justement pour avoir un fil plus long, puis avoir un deuxième fil pour brancher dans mon auto pour charger. Puis je regardais, je cherchais des fils, puis tu sais, Amazon.ca puis Amazon.com, c'est pas la même marchandise tout le temps. Fait que je cherchais un fil, j'en ai trouvé un qui avait l'air comme potable, puis j'ai demandé, l'aviez-vous testé? Tu sais, genre, Google le gars, je tombe sur son Google Plus, j'envoie un message, j'écris, ils sont demandés, tu sais.
Tu veux une preuve que le gars travaille chez Google, tu peux y parler par Google Plus.
Voilà, c'est vraiment la seule façon. Mais le pire, c'est que c'est très drôle. Moi, il était comme genre 2h du matin, heure locale, puis je pose la question. Une demi-heure après, il me répond. Bon, ouais, j'ai jamais testé, mais t'as-tu besoin d'un 3.1? Puis... Fait que j'ai. Le gars était écœurant. Pour vrai, il est super sympathique. Puis quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait comme ah, c'est clair, là. Il a fini par tester un fil de tellement de mal, ça a tout pété.
Et voilà.
Fait qu'il m'a dit de prendre un fil pas de 3.1 parce que c'est absolument pas nécessaire dans mon cas. Puis je savais pas parce que je connaissais pas les standards USB-C. Puis
okay, on apprend des choses à du VanQuest. Ouais.
Quand même. Puis ça y a pris où de vouloir faire ça?
Ben, je pense qu'il travaille.
C'est parce que Google pousse beaucoup le type C pour beaucoup de leurs appareils. Puis, justement, avec le grey market, les produits cheap, ben, ça nuit un petit peu à l'adoption de ce protocole-là parce que, au niveau technique, le USB type C puis le type A, il y a vraiment une conversion de voltage très, très importante à faire. Puis, c'est là que le problème survient quand tu as un fil cheap. Qui n'est pas un problème de type C à type C. Tu peux prendre n'importe quel hostie de scrap quand tu prends un USB type C à type C parce qu'il n'y a pas de conversion exact.
Ouais, c'est ça.
Quand tu tombes dans le. De changer
ben,
de protocole.
C'est le 3.1 là, parce que là, il y a comme. Tu sais, tu pourrais prendre ce fil-là, puis brancher deux trucs type C ensemble, puis partagerais leur courant. En tout cas, c'est spécial, là. Fait que c'est pour ça que ça coûte cher, c'est ce qui expliquait le gars, là. Ça coûte cher parce que le fil a une complexité technique, là. C'est pas juste un un fil. Il y a vraiment des trucs dedans. Puis les scraps de même, là, il y a des résistances qui n'ont pas la bonne résistance. Puis ça fait frire un ordi.
Et voilà,
mais le gars, il teste à peu près tout ce qu'il y a à tester là-dedans. C'est
tout
très
ce qu'il peut
drôle,
mettre la main dessus, qu'il n'y a pas des gens dans son répertoire, il continue.
Si tu vas sur Amazon, là, tu cherches un gogos, un chargeur de. J'ai un chargeur à mon char qui était USB type C pour charger mon cellulaire. Ben, il est à peu près tout testé. Il dit non, on prend pas lui, il sort pas le bon voltage, il y a pas assez d'ampérage dedans, fait que t'auras pas la charge rapide de ton téléphone. Puis effectivement, celui que j'ai acheté, qu'il recommandait, qui disait qu'il avait été testé, charge rapidement comme le téléphone comme il est supposé être. Puis c'est... En tout cas.
Fait que bref, pour revenir à la nouvelle.
C'est assez pour notre segment technique.
Mais c'est ça. Ça serait facile à ce moment-là de faire un gag du genre ne pas insérer un objet dont on ne connaît pas la provenance dans un orifice car les conséquences pourraient être terribles. On est meilleur que ça. Fait que je. Ben, pas vraiment. Parce que, fait que je me contenterai de vous suggérer un petit conseil de sécurité. J'ai pas l'expertise là, sur les types C que M. Liang a, mais rule of thumb, là, règle générale. Si le câble que tu as acheté a un nom que tu n'arrives pas à prononcer puis il coûte moins cher qu'un café chez McDo, c'est probablement de la merde. OK? Voilà. Le site Ars Technica nous démontrait l'existence d'une faille de sécurité assez importante dans les applications mobiles de eBay, autant sur iOS que Android. C'est une faille connue en tant que le JSFuck, qui utilise JavaScript, d'où le JS dans le nom, qui, en gros, lorsqu'on visite une page contenant le code malicieux en question, le dit code peut envoyer un message à l'application eBay installée sur votre appareil et vous afficher un message natif de l'application, mais avec le contenu modifié à la guise du méchant pirate. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Fallait trouver une raison de le dropper. Mais rendu là, il y a beaucoup de gens qui vont être bernés parce qu'il faut envoyer... C'est ça, t'as un message qui est natif. Fait que là, il te dit allez updater vos réglages de sécurité, ça te met un lien, tu peux aller sur une page, puis là, tu rentres ton mot de passe, ton numéro de carte de crédit, tes mensurations. Pis,
mais ils doivent quand même t'amener à l'extérieur de l'application.
Ouais, mais t'as un message natif de l'application. Fait que tu sais, oui, tu devrais pas te faire prendre, mais ça l'ouvre la porte à beaucoup de faire quand tu considères que le monde est prêt à donner le numéro de carte de crédit au téléphone. Fait que rendu là, la porte est grande ouverte. Fait que eBay a répondu à Ars Technica avec un typique commentaire générique du style « On prend la sécurité au sérieux, on n'a pas détecté de véritables risques, blablabla, blablabla. » Ils se sont probablement dit que le plus gros risque que les utilisateurs couraient en bout de ligne, c'était de se faire suggérer d'acheter des copies cheap faites en Chine de produits populaires. Puis ça, c'est pas du piratage, c'est juste leur modèle d'affaires.
Quand tu t'allais parler des fils USB.
Éditorial. Donc, comme on l'a dit, comme tu l'as glissé tantôt, Matt, on a un épisode avec un à saveur Saint-Valentin. Donc, ça goûte des petits cœurs à cannelle.
Ça goûte? Ouais, quand ta Saint-Valentin goûte, tu sais que tu n'as pas une bonne.
mais, donc, je me suis dit, de quoi on veut parler? Est-ce qu'on s'est dit on voulait être assez libertin au niveau de notre application du thème de l'amour et... de l'amitié dans notre podcast.
Donc, tu as joué à 4 jeux en même temps. Tu leur as tout dit que t'es aimé.
Tout. Voilà.
Tu leur as transféré des choses.
Je suis un gars facile de même. Ce que j'ai pensé faire, c'est... Il y a des choses qu'on fait dans les jeux vidéo. Il y a des choses que tout le monde aime faire dans le gaming, dans différents styles de jeux, et que tout le monde fait, sans vraiment se l'avouer. Puis je me suis demandé, c'était quoi ces choses-là? Essayer d'y réfléchir pour peut-être en faire une liste, un genre de BuzzFeed un petit peu de
oh, cool.
Qu'est-ce que les gamers aiment faire, que les développeurs n'ont pas prévu dans les jeux, mais qu'on fait quand même.
T'aurais dû partir avec un titre comme « Vous ne croirez jamais ce que nous voulons faire dans les jeux ».
Donc,
Cliquez ici.
Cliquez sur Divan Quest épisode 14. on mettra ce headline-là dans le résumé de l'épisode.
Sauf que si t'es en train de l'écouter... Puis... Non, c'est correct, continue.
Ben, tu peux le recommencer.
Voilà.
Puis rire encore.
Ou pas.
Non, mais en fait, comme les jeux poussent le réalisme de plus en plus loin, ça devient de plus en plus beau, de plus en plus réel. Mais nos comportements, eux, restent les mêmes, puis ils changent vraiment pas. Donc, ils deviennent simplement de plus en plus bizarres face aux jeux qui viennent, eux, de plus en plus proches de notre réalité.
Je suis vraiment curieux de voir où ça s'en va.
Moi, vraiment. Mais il y a des actions que tout le monde fait, qui sont souvent plus fortes que nous, puis c'est impossible de résister à la tentation. Malheureusement. Par quelque part, c'est probablement mieux comme ça. Ça nous évite de poser ces gestes dans la vie tous les jours, d'avoir l'air des mots épais. Donc, une liste de comportements qui n'ont pas été inclus par les développeurs, mais que je pense que c'est quelque chose qu'on fait tous malheureusement dans les jeux, ou heureusement qu'on le fasse dans les jeux, en fait. Le premier, en fait, un des plus évidents, évidemment, c'est le teabagging. Donc, je pense que si vous sortez de. Si vous, vous quittez la maison, vous êtes dans un Walmart, criez après un jeune adolescent avant de le puncher dans la face, pour ça le teabagger une fois qu'il est à terre dans le milieu de l'allée, vous risquez d'aller en prison. Il y a de fortes chances. Pourtant, à Call of Duty, on se le permet, c'est pas de problème. Ça y apprendra à péter ma kill streak.
Danny qui bondit sur sa chaise. On regarde pas ça.
Un autre comportement étrange du gamer, en fait, c'est dans les jeux, on compare constamment nos munitions à la quantité de vie qui nous reste, en fait. Donc, si le ratio n'est pas satisfaisant, donc j'ai perdu trop de vie ou j'ai tiré trop de balles pour faire cette section du tableau-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reload la game. Puis c'est encore plus le fun quand le jeu offre une fonction quick save, quick load. Fait que F8, F9, on recommence, on repart.
C'est quoi,
on
c'est quoi, la run par c'est quoi le son du F8, F9? C'est... Ok, excusez.
C'est proche des guillemets de.
C'est dans la même famille.
Dans la même famille. C'est encore un comportement justement qui serait très peu efficace dans la vie de tous les jours. on imagine les soldats au combat qui. Ah, boss, je recommence.
Je sais dire. Ah, bah, je recommence.
Autre petit comportement aussi de que la plupart des gamers vont faire, en fait, puis vous l'avez fait, personne ne peut dire ne pas l'avoir fait. C'est un peu en lien avec le ratio vie et munitions. Qui est-ce qui utilise les potions de guérison ou les potions de mana dans les jeux? on les conserve toutes au cas où pour plus tard. Pourtant, les jeux sont habituellement designés pour nous permettre d'en récupérer régulièrement quand on a besoin.
Pire que ça, dans les jeux que tu connais par cœur, hein, il y a des jeux que je connais par cœur, je m'en sers pas plus. Puis je sais ce qui s'en vient, mais je m'en sers pas plus. Ouais.
Au lieu de se servir des potions de guérison, on préfère reloader notre game pour garder nos potions, mais pas perdre de vie.
Au cocou. Voilà. Mais, puis en fait, j'aimerais remercier quand même les Final Fantasy à l'époque de limiter les objets à 99. Parce que sinon, j'en aurais 999.
D'ailleurs, en fait, TLC ont annoncé la programmation 2016, puis il paraît que la série Orders Buried Alive va avoir un focus sur le gaming cette année.
C'est juste des inventaires pleins de potions.
Deux piles de journaux.
Un autre comportement qu'on fait tous, puis que c'est immanquable, c'est shooter les NPC, les personnages joueurs qui sont friendly dans les jeux. Ça arrive toujours. J'élargirais même la définition d'un personnage joueur jusqu'à la faune puis la flore dans les environnements de jeu. Ok, je l'avoue, dans la bêta de Division, j'ai essayé de tirer sur les chiens errants puis sur les corbeaux. Mm. Okay. Fait que tirer ses corbeaux, ça fait rien. Puis tirer sur les chiens, il meurt. Mais des fois, on limite un petit peu la violence. Puis on tire pas nécessairement sur les personnages joueurs. On est juste des fois simplement sadiques. Puis on fait juste les maltraiter. Qui ici, qui a joué au jeu évidemment, là, n'a jamais enfermé le butler dans le congélateur à Tomb Raider 2?
Il te faisait des petits cris de ça. En fait, exprès pour que tu joues avec. Là.
Oui,
le butler, à toutes les fois, tu fais genre un triple axel à côté de lui, puis tu l'accroches, il a tout son petit plateau de verre qui fait ding ding ding. Puis il est clairement genre sur le Parkinson, ben raide. Donc...
on l'a tout foutu dans le frigidaire pour m'apporter avec lui dedans.
Ça fait 20 minutes, quelle dérape, mais t'es dans le labyrinthe en dehors de la maison, justement, là. Puis il est fucké le labyrinthe, là. Il est quand même bizarre. Puis tu croises tout le temps le butler dans le labyrinthe. Il est fucking perdu, le vieux. Il cherche ses meds, il cherche ses pilules.
Puis, t'sais, j'espère que je te vole pas un punch. Là. Si je te vole un punch, je vais me couper au montage. Là. Mais tu sais, ça veut rentrer dans la lignée de ceux qui ont joué aux Sims puis toutes les affaires méchantes que tu peux faire avec tes Sims.
Ben oui, entre autres. J'ai pensé parler des Sims, mais je l'ai pas mis dans mon segment.
Mettre 200 personnes dans une piscine, enlever l'escalier puis les regarder mourir.
c'est toujours le premier exemple, enlever le style d'échelle dans la piscine ou mettre beaucoup trop de chaises proche d'un foyer.
C'est comme jouer à Roller Coaster Tycoon puis faire une montagne russe qui tue du monde.
Parenthèse terrible, mais je l'ai tellement ri. Il y avait un gars sur Reddit qui, à Roller Coaster Tycoon, tu sais, t'as évidemment ton parc est classé s'il y a du monde qui meurt dans ton parc, puis des trucs comme ça. Le gars a fait.
Non, moi j'imagine la réalité de même. S'il y a 12% du monde qui meurt, ça vaut la peine.
C'est ça. Oh, mais il y a 50% off.
Odds are good.
Bref, le gars avait fait une rampe. Il avait une rampe qui projetait le monde dans le parc voisin. Fait que les morts étaient comptés dans l'autre parc. Fait qu'il montait son ring game et tout le monde allait se tuer.
You clever devil!
Ah, c'est un level de sadisme inégalé, là.
Ouais, c'est normal.
Ben, voilà. Ouais, effectivement. C'est plus profond que je l'avais pensé. Une autre chose que tout le monde fait, c'est immanquable, dans un RPG à la troisième personne, si on est coincé dans une conversation et que l'angle de caméra n'est pas verrouillé, on fait tourner la caméra autour des personnages sans arrêt.
Moi, je réalise la scène. Je trouve des angles nice, puis je place la caméra.
C'est intéressant, parce que la fois, pour nous autres, c'est un passe-temps, mais pour Michael Bay, il a fait des millions avec ça. Rapidement, d'autres qu'on n'est pas obligé de se perdre non plus longtemps, là. Mais les choses qu'on va faire tous, sauter sans arrêt quand on se déplace sur des longues distances dans un jeu.
Clair.
Parce que sensiblement, sauter, ça va plus vite que courir.
Ah, puis tous les jeux qui te permettent pas de sauter, versus les jeux que tu peux sauter puis que ça sert à rien, t'es juste comme, ah, c'est-tu que ça gâche, je peux pas sauter.
Je me rappelle.
Aucune fonction.
Genre, autour des années 2000, un petit peu plus que ça, Jeff qui... essaie de me convaincre de venir le rejoindre dans World of Warcraft quand je jouais à Guild Wars. Puis un des arguments était « Mais on peut sauter!
Ben » ouais.
Ce moment était aussi connu en tant que le début de la fin.
Non, et pourtant pas, ça s'est fait plus tard, moi.
Ah, OK.
j'ai inséré la graine de...
Ça te regarde pas, ça!
sinon, pour rester dans la veine... De ce qui nous regarde pas.
Dans la veine.
Tu sais, là, la main.
La main.
Tu sais, là, en tout cas.
Ouais, ça ne regarde pas son autre.
Mais tout le monde utilise les toilettes dans les salles de bain dans un jeu. Si, on va tout avoir le réflexe de voir si on peut aller pisser dans l'urinoir.
Ou flusher
au minimum. J'ai choisi de nommer Duke Nukem comme étant le coupable d'avoir créé l'obsession chez les gamers.
Mais la meilleure, je trouve, réalisation de tout ça, c'est dans South Park de Stick of Truth. Avez-vous joué?
Oui.
Moi, j'ai pas joué.
Tu peux aller aux toilettes, puis là, ben, tu fais ton caca, mais tu peux aussi le ramasser, puis le garder. Puis dans les combats, t'en servir pour grossed out les ennemis en leur pichant dessus. Fait que les autres, ils ont monté sur un deuxième niveau.
T'sais. Ah, ils ont vraiment focusé sur le bon goût.
Le bon, un jeu de South Park.
Hein. Oui, absolument.
Reste que c'est un des meilleurs RPG que j'ai joué l'année passée.
Mais est-ce que tu grossed out tout le monde à qui tu parles pendant que tu l'as dans ton inventaire?
Non, malheureusement.
Ben non, tu mets en 5-10 blocs. Je sais pas.
C'est South Park, c'est pas grave.
Sinon, deux petits derniers. Se jeter du haut des falaises. Dans tous les jours, il y a une falaise. Se jeter dans haut de la falaise. Surtout si le ragdoll est bien fait. On va tous se pitcher pour se regarder descendre.
T'as parlé de Tomb Raider 2 tantôt, hein? Astique à ragdoll. Oh, t'entends tout le corps vire en pretzel à terre.
Non, mais faut que tu fasses la chandelle. Là. Tu fais le super beau saut chandelle.
Du haut d'une tabarnak de falaise. T'avais juste... Potac! Et tout en morceaux à terre. C'est que c'est...
Puis dans tous les jeux comme Skyrim puis tout ça, fuck les waypoints. C'est pas vrai que la montagne va se mettre entre moi puis ma destination.
Ah non, mais vraiment. Hein. Mais tu vois, je parlais tantôt que je jouais à The Old Republic, puis il n'y a pas de ragdoll, là, c'est un MMORPG, mais quand tu sautes d'une certaine hauteur, ton bonhomme en arrivant au sol fait une roulade. Mais peu importe la hauteur, dès que tu dépasses la... Tu sautes de peu près 1,5 m de haut, fais une roulade. C'est correct, dans la réalité, c'est ce que... Sure. Tu sautes de comme 12 étages, fais une roulade, mais il se relève plus. Il fait quand même sa roulade avant de mourir.
Ah, nice.
C'est Mario ou Link qui fait ça, que s'il tombe de trop haut, c'est une roulade, il mange pas de dégâts? C'est pas Mario 64, je
pense. Ah oui, t'as raison.
Ben, tu peux faire ton... tu fais comme ton bump là, pour tomber plus vite, mais à la fin, fait, c'est comme
ça,
si tu recommences à tomber. Puis,
quand tu tombes pas trop haut. Game design. Et sinon, le dernier... un autre dont tout le monde est coupable, déjà. J'avais...
Non, mais c'était drôle.
J'en aurais pris plus.
J'en aurais pris plus. Conduire à l'envers sur une piste de course dans un jeu de course.
C'est clair.
Parce surtout que... si les accidents sont graphiques.
Ben, that's it. Parce que si au moins je peux pas pour gagner, je vais quand même front-end le char, le premier qui repasse en arrière.
J'avais vu sur Reddit une vidéo de ça dernièrement. Je sais plus quel jeu, mais il fait comme fuck it, il revient de bord, puis il te ramasse, là.
Étrangement, c'est aussi les vidéos dans les compilations de films qui sont très intéressantes à regarder. Je parle pas de jeu, là. Je parle de monde qui roule vraiment à l'envers.
Puis plus le jeu est sérieux, plus c'est intéressant.
Ah oh oui.
Tu sais, comme un bon vieux Grand Prix 2, là, dans le temps, là, sur mon P2-233, là. Tu roulais à l'envers, ça faisait aucun mot de sens, mais c'est pas grave, les chars se défaisaient, tu vois, les F1 qui volaient en morceaux.
Ou les jeux où est-ce qu'il n'y a pas de réalisme dans les collisions, ça fait juste comme « POC ». Deux chars, ils roulent à 250 km/h, ça fait « POC ». Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, je commence avec une petite tangente un peu, vous m'excuserez. En date du 15 février, donc je commence avec le 15 février 1839, pendaison de 5 patriotes, dans l'époque des patriotes, je crois. Chevalier de Lorigny, qui est un notaire, Charles Hindenlang, un militaire français, Pierre-Rémy Narbonne, un huissier, Amable Daunet, un cultivateur, et François-Nicolas, un instituteur. Ils sont pendus à la prison au pied du courant à Montréal. Gérard Filteau, là, dans le journal L'Aurore des Canadas, qui est un journal canadien-français à l'époque, dira « Le peuple appellera martyrs ceux qui meurent sur l'échafaud. Prenez garde à la première tête qui tombe, elle met le peuple en appétit. » Et je vous laisse sur une petite chanson hommage, si on veut, quelques secondes.
Demain je pars pour la guerre avec mon grand chien qui aboie. Des cailloux pleins, ma gibecière, et à mon côté gauche le droit. Je vais tuer sa majesté, qui dit ma tante, qui dit m'aimer. 100 fois par jour, elle me trahit, on doit mourir quand on trahit.
Je passe aux naissances. T'allais dire quelque chose, Mathieu?
Non, j'étais juste satisfait.
Il n'y a pas que de l'humour dans la vie. Un peu de vraie histoire de temps en temps. Donc, naissance importante. Cette fois-ci, je ne outsource pas mes blagues. J'ai pas eu de réponse. J'ai dit, il va falloir que je recommence à les faire moi-même. 1564, la naissance de Galileo Galilei, hein, ce fou qui ose dire que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Il est aussi connu pour ses nombreux tweet fights avec le rappeur B.O.B. Hein, pour ceux qui seraient pas au courant, B.O.B. c'est une des personnalités dernièrement là, qui se pogne avec tout le monde sur les réseaux sociaux en disant que la Terre est plate. Là. Ouais. Voilà. Puis qu'il existe une conspiration aussi pour nous faire croire le contraire, là, que la NASA serait dans le coup. Puis c'est écœurant.
Savoureux.
Ah oui, vraiment. 1612, Paul Chomedey de Maisonneuve, le gars qui avait comme but dans la vie là, de donner son nom à plusieurs rues et édifices dans la grande région de Montréal.
Mission accomplie.
Mission accomplie. En 1954, Matt Groening, fondateur du groupe musical Bongo Comic Group, si vous ne connaissez pas. Dans le fond, je ne sais pas trop pourquoi j'en parle. Là. C'est un gars qui n'est vraiment pas du tout connu. Niveau techno maintenant. 1897, Ferdinand Brown publie un article dans une revue scientifique qui décrit le fonctionnement du premier oscilloscope à rayon cathodique qui amènera plus tard l'invention des écrans CRT. Hein, les puristes du rétrogramming l'en remercient encore.
Ben, j'allais dire, amènera plus tard l'invention de Pong, qui va sur un oscilloscope du genre.
Tout à fait. Puis les autres écrans CRT aussi. 1995, arrestation de Kevin Mitnick, qui s'appelait El Condor à l'époque, par le FBI, un pirate informatique qui a accédé illégalement aux bases de données de Pacific Bell, Fujitsu, Motorola, Nokia, Sun Microsystems. Semblerait aussi que quelques jours avant son arrestation, il a trouvé un fichier qui s'appelait repository1.txt, gros de plusieurs téraoctets, et que lors de son arrestation, il aurait disparu sous les yeux ébahis des enquêteurs. Il était alors vêtu d'un étrange costume cheap de magicien. Niveau gaming, 15 février 1985, Galaga au NES. Je l'avais juste pas mis, il fallait qu'il rajoute.
1982. Performance live, mesdames et messieurs.
Live. Et vous comprenez maintenant pourquoi on enregistre. 1992, le jeu Burger Time Deluxe au Game Boy qui est sorti exactement un an jour pour jour après sa sortie au Japon. Je trouvais ça drôle que c'était la même date au Japon en 91 et 92 aux États-Unis. 93 plutôt, Star Wars X-Wing sur DOS.
Yes!
Et 1999, SimCity, une version de SimCity qui est sortie sur Symbian OS. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est à peu près tout le monde qui font comme « the fuck, Symbian », c'était un OS pour téléphone cellulaire. Là, les Nokia, à l'époque, utilisaient ce système d'exploitation-là entre 97, puis ça a continué quand même jusqu'en 2014.
Ben oui, les téléphones de Nokia récents encore, qui n'étaient pas des téléphones intelligents, roulent encore sur Symbian.
Voilà, fait qu'on pouvait avoir SimCity, l'original, à partir de 99. Moi, j'aime ça, on dirait trouver des vieux jeux sortis sur des systèmes d'exploitation un peu bidons. Voilà pour l'histoire.
Alors, pour notre épisode de Saint-Valentin, j'ai décidé de vous parler d'amour, du vrai, du grand, de l'inextinguible flamme que j'ai pour Ease, The Odin Felgener de Falcom. Ease, en passant, on dit Ease. C'est comme ça qu'il se prononce. C'est
pour Y-S, là.
Y-S, exactement. Je me fie à l'intro du jeu Ease Origin, qui a une narration. Il parle de Ease. Donc voilà, pour ceux qui
ne savent pas. Se fier au jeu, c'est généralement une bonne idée.
Mais ça a été long, on va avoir une version audible. Ouais. Alors, Ease, The Oath in Felghana, est un jeu disponible sur PC via Steam et sur PSP. Publié originellement sur PC au Japon par Falcom, qui est évidemment le développeur du jeu, en 2005. Ensuite, sur PSP en 2010 et sur Steam en anglais pour le reste du monde en 2012. Moi, j'ai vraiment joué à ce jeu-là lors de sa version PC, que j'avais pas de PSP à l'époque, bien que j'étais familier avec la série. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette série-là, sans rentrer dans les détails de l'histoire, etc. C'est un jeu que je décrirais comme un action-adventure RPG. Plus précisément, c'est un peu une espèce de Zelda, dans le style des Zelda en 2D, comme Link to the Past, avec un focus beaucoup plus grand sur le système de combat, avec des combos, des enchaînements, puis des éléments d'RPG qui sont beaucoup plus présents que dans Zelda. On a un système de niveau, puis il n'y a pas vraiment de grinding, parce que le jeu s'auto-level pour te suivre, si on veut. Là. Ou en fait, il te force à être au bon niveau, à bonne place, dans une certaine mesure. Mais il y a quand même des éléments d'RPG. Il y a des niveaux, il y a des stats. Et également, ce qui va le distinguer de Zelda, c'est que le niveau de difficulté est magnifiquement élevé. C'est pas un jeu facile, puis c'est à son crédit. Comme la plupart des jeux de Falcom, et comme tous les jeux de la série Ease, le soundtrack est écœurant. Majoritairement, pas un soundtrack orchestral, si on compare encore à Zelda, bien qu'il y a certaines pièces qui soient plus atmosphériques, plus dans l'ambiance, mais c'est plutôt très très rock en général, qui appuie énormément bien la vitesse et l'énergie de ces jeux-là. Et fidèle à mon habitude, ben, je vais vous donner un extrait.
C'est bien bon, ça.
Voilà. Fait qu'on comprend qu'on est loin du rythme d'un Zelda. Dans ce jeu-là, on peut sauter, on peut faire des combos aériens. Les power-ups qu'on trouve au travers du jeu sont nécessaires, oui, pour traverser l'environnement, bien sûr, mais changent énormément la façon qu'on peut se battre. Donc, ça fait que le jeu reste toujours trippant puis rafraîchissant. Il y a un certain focus sur le platforming dans certaines sections, qui peut être un peu frustrant parce qu'il y a toujours beaucoup d'ennemis prêts à nous pitcher dans un trou à n'importe quel moment. Mais ça fait partie du jeu et de son niveau de difficulté. Oui, ça peut être frustrant par moment, mais c'est ça. Si t'es pas frustré un peu, ben t'es moins content quand tu réussis à le battre. Ce jeu-là est en fait un remake d'un plus vieux jeu de la série, connu principalement en Amérique sous le nom de Ease 3, The Wanderer of Ease, qui est sorti pour nous ici en 91 au Super Nintendo. Le jeu original a été publié sur un nombre un peu ridicule de plateformes, fait que je les nommerai pas tous, mais c'est assez typique de Falcom à cette époque-là, là, que c'était disponible sur toutes et toutes. Mais dans le cas du jeu original, dans toutes les versions du jeu original, c'est un RPG, mais en plateforme side-scroller, donc un Metroid, Castlevania, Mario, etc., avec des éléments d'RPG. Fait que malgré que le SNES ait un super bon chipset audio, qui permet de produire certains des soundtracks les plus mémorables à ce jour. Il y a quelque chose qui me dit que l'équipe qui a travaillé sa version SNES de Ease avait pas le même souci à ce moment-là, ou elle aimait plus le son chiptune 8-bit. Bref, la musique de la version dont je vous parle aujourd'hui, Oath in Felghana, est une série de reprises des pistes du jeu dont il a été inspiré. Donc, je vais vous proposer une petite comparaison. On va commencer avec la version SNES d'une des pistes qui s'appelle Be Careful. M'excuse, Guillaume.
On entend la solo de guitare. Hein?
C'est comme Bon Disset.
Sérieux, on est loin des soundtracks là, de Final Fantasy ou de Chrono Trigger. Là,
et la même piste dans Oath in Felghana.
Pareil.
Ça, va l'arrêter là parce que je vous mettrai les 5 minutes de la tune au complet.
Mais avez-vous intéressé, je me pars un cover band.
Non, mais c'est comme plus écoutable.
C'est, la différence est assez importante. Puis autant que c'est un jeu qui peut être frustrant, qui n'est pas facile, c'est pas un jeu qui punit tant que ça. Les boss sont très difficiles, c'est des boss dans la plus belle tradition des jeux où est-ce qu'il faut que tu apprennes les patterns, puis tant que tu connais pas le pattern, il va te crisser une volée. Mais quand tu meurs, tu recommences au début du boss, puis ça s'arrête là. Puis tu recommences habituellement à l'entrée de la room, qui fait que tu peux même sortir puis aller faire autre chose. Fait que ça punit pas beaucoup dans ce sens-là. Puis il y a toujours moyen, si t'es vraiment... t'as beaucoup de difficultés avec le boss, de grinder un peu pour être plus fort puis le rendre plus facile. Mais si t'as pas le pattern, pareil, il va te sacrer une volée. Mais il faut vraiment que tu veuilles, parce que le jeu va... quand t'arrives dans une nouvelle section, les ennemis donnent beaucoup, beaucoup de points d'expérience pour t'amener au niveau que t'as besoin d'être. Puis ça stagne. Le temps d'explorer un donjon, habituellement, tu rushes au début, t'es dans la moitié du donjon, il est comme devenu normal à faire, puis tu levels plus, à moins de vraiment d'être à côté puis de faire exprès de grinder. Fait qu'il t'amène où ce que t'as besoin d'être, il nourrit ton besoin d'un RPG qui te fait leveler puis qui te fait te sentir plus fort, puis arrête là. T'arrives dans la prochaine région, il refait la même chose puis tu continues.
Ça, c'est une mécanique vraiment le fun, là.
Ben c'est ça, ça garde ça gratte notre Pavlov, ça gratte notre conditionnement de RPG pour ceux qui en ont besoin.
Ça gratte le Pavlov.
Pas craché, pas pensé. Fait que c'est ça, ça nourrit ce besoin-là, mais sans en faire une véritable mécanique, puis sans vraiment te ralentir.
Mais sans te faire mais, grinder pour grinder.
Mais ça risque pas de faire en sorte que t'arrives au boss de fin, mettons, du donjon, puis il est pas dur.
Non, c'est ça, il t'amène toujours au niveau que t'as besoin d'être.
Il y a un challenge quand même.
C'est ça, exact. Parce que dans le fond, l'XP, tu leveles super vite quand t'arrives dans une nouvelle région. Puis après ça, t'arrêtes de leveler. Genre. Tu sais, tu peux être une demi-heure dans le tableau, puis tu prendras probablement pas un level. Genre. Parce que, bon, t'as besoin d'être là. Je t'ai amené à ce niveau-là. Fais le tableau. Fait qu'ils savent que t'arrives au boss, tu fais exactement le nombre de points de dégâts qu'ils veulent que tu fasses. Puis il y a une mécanique où est-ce que t'as les Raval Ore. C'est des petits diamants que tu ramasses qui permettent d'upgrader tes armes, ton équipement. Mais eux aussi, ils sont tellement dosés que. C'est presque impensable. Je suis sûr que tu fais une game, on ouvre la mienne, on est en même place, nos armes sont en même place à peu près. Il y a enfin qu'ils peuvent t'amener un petit peu à grinder pour maxer tes armes. Puis j'ai trouvé que c'était un petit peu inutile à ce moment-là parce que t'en as quand même beaucoup à ramasser. Mais tu te rends compte assez vite que, encore une fois, le nombre de cristaux que tu ramasses augmente beaucoup dans les régions suivantes. Fait que là, t'es comme, ah, je pourrais monter mon arme puis je vais être plus fort parce que tu rushes pour un bout. Tu peux grinder si tu veux être plus fort parce que t'as de la difficulté. Mais fais-le pas, le jeu va te donner un niveau de challenge élevé qui est faisable quand même.
Tu sais, moi qui est amateur de RPG, ce que j'aime là-dedans, c'est ça, là. C'est que tu n'as pas besoin de grinder, tu ramasses ce que tu as pour ramasser, puis après ça, tu te concentres sur la mécanique. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de te concentrer sur la mécanique, de voir comment je vais le battre le boss, comment je vais m'y prendre, de quelle façon, quelle stratégie je vais appliquer. Puis...
Ben, j'ai souvent le discours où est-ce que je trouve que les niveaux dans un jeu, c'est une béquille inutile, parce que tu pourrais. Zelda n'a pas de niveau, puis il offre ce même genre de difficulté-là. Mais. Ici, on a un équilibre qui est le fun parce que je pense qu'on gratte quelque chose que le monde aime dans les RPG. Puis pour moi, qui n'est pas forcément un fan de ça, j'en retrouve quand même la satisfaction d'avoir justement les chiffres qui grimpent, puis le nouvel équipement, puis les nouvelles attaques, mais sans que ça soit aliénant, puis sans que tu sentes le besoin de tourner en rond pendant des heures. Puis même si tu avais à grinder à cause du style de combat, c'est le fun. Battre des ennemis à chaque moment, ça fait partie de l'expérience, puis c'est pas juste comme une tâche. Aliénant. Entre la version PC et PSP, parce que les deux se trouvent assez bien. C'est pas un jeu qui est très dispendieux. En fait, sur PC, évidemment sur Steam, la sortie qu'ils ont faite en 2012, ils ont vraiment fait une super belle job. Ils ont patché le jeu pour qu'il supporte le widescreen, parce qu'à l'époque que le jeu est sorti, il n'y en avait pas. Puis ils supportent les cartes graphiques modernes. Fait autant que le jeu est quand même relativement en nombre de polygones peu élevé, puis que les personnages sont tous en sprite 2D, donc ils restent toujours très beaux. Le jeu a un très très beau fini, c'est très coloré. C'est agréable, même aujourd'hui. La version PC et PS2, les différences, par contre, qu'il faut s'attendre. La version PSP a du voice acting d'un bout à l'autre. Je la déconseille. OK, c'est horrible. Éteignez-le. C'est dégueulasse. Éteignez le voice acting. Déjà que l'histoire est un petit peu dessin animé japonais, c'est un petit peu cheesy, c'est un petit peu ordinaire.
Mais l'option est-tu là pour le...
Oui, okay. Puis thank fucking God. OK, c'est... Tu sais, je l'avais fait sur PC au complet avant de jouer à la version PSP, puis j'ai commencé, puis j'étais comme... Ouf, ça nuit vraiment à mon appréciation du jeu. Là. C'est enfantin, c'est lourd. C'est... Puis il y a comme une espèce d'innuendo japonais là, parce qu'il y a comme pas des références de cul, mais il y a toujours comme des « Oh well, she's grown into a fine woman ». T'es comme « Ah, pourquoi tu dis ça? C'est creepy comme un style de dialogue. » Puis là, tu l'entends le dire.
Oui, c'est au début, ça, là, parce que j'ai...
C'est très tôt dans le jeu.
J'ai presque commencé le jeu, j'ai juste pas vraiment embarqué. Pas parce que c'est pas un bon jeu, juste j'ai pas pris le temps d'embarquer. Puis ce bout-là, je m'en rappelle. Puis c'est creepy, là.
Puis l'histoire, le gars, j'en ai pas parlé, là, mais c'est pas du génie. Ça fait partie de la série où que tu joues toujours le même personnage de Adol, à part dans un jeu de la série, en tout cas, qui vit des aventures, mais les jeux ont aucun... T'as aucun besoin de jouer aux autres jeux pour embarquer dans un. Puis l'histoire est assez simple, puis tu joues pour jouer, il y a des bons punchs, puis c'est correct. On s'arrête pas à ça, là. Bref, voice acting, qu'on peut éteindre au PSP, thank God, mais il est là, pour ceux que ça pourrait intéresser. Puis il y a un New Game Plus. Ouais, il y a comme des petits détails là, au niveau du New Game Plus sur PSP. Mais c'est pas la fin du monde, mais pour ceux qui sont fans
c'est,
de rejouer
c'est la fin du jeu.
Comment?
Le New Game Plus, c'est pas la fin du monde, c'est la fin du jeu.
Je savais pas comment réagir, genre ta foule est là. Le jeu prend autour de 20 heures à compléter, ou 8.5 SS. SS étant des segments Shadowrun, qui est l'unité de mesure de Divan Quest. Mais ça en dit long, par contre, pour que moi, en me disant c'est quoi un de tes jeux préférés que tu voudrais parler pour la joke de la Saint-Valentin, je prends un jeu qui dure 20 heures, puis qui a des éléments d'RPG. Parce qu'habituellement, c'est un jeu qui prend plus qu'une dizaine d'heures, c'est rare que je vais y donner mon attention. Puis celui-là, je l'ai bouffé, je l'ai refait et je l'ai refait. Donc je pense que c'est la meilleure façon que je peux communiquer à quel point ce jeu-là m'a charmé, parce qu'il y a de la bonne musique, il y a du bon gameplay, il y a du beau art, tout est à bonne place pour créer une expérience vraiment solide, plus que les autres jeux de la série que j'aime bien aussi. Et justement, parlant des autres jeux de la série, il existe trois autres jeux sur le même deux autres sur le même moteur que Out in Ferghana, qui se trouve être le deuxième à utiliser ce moteur-là. Les trois jeux ont un feel et un gameplay qui est très très semblable, évidemment. Donc, malgré que je considère Ferghana de loin comme le meilleur action RPG auquel j'ai eu le plaisir de jouer, les deux autres sont des titres très très solides puis qui en donnent juste plus à se mettre sous la dent. Le premier qui utilisait le moteur, c'était Ease, The Ark of Napishtim, qui a eu une sortie sur PC, PS2 et PSP. La version PS2 ayant été publiée par Konami, mais qui a eu des petites modifications. Ils ont fait une intro du jeu qui est différente, puis qui est horrible, qui est vraiment, vraiment dégueulasse.
Attends, tu veux dire que...
Vraiment. Mais d'un autre côté, c'est dur de les blâmer tant que ça, parce que c'est un port. Au niveau du gameplay, le port est extrêmement solide. C'est une super bonne version du jeu à jouer. Sauf qu'ils ont remplacé les sprites 2D, donc les petits bonhommes rendus en 2D, par des modèles 3D au complet dans le jeu. Ça change pas grand-chose, mais ça change la présentation, puis c'est pas plus beau, d'aucune façon. Donc, c'était pas utile. Puis, ils ont modifié toute l'intro du jeu, peut-être pour essayer comme d'attacher l'histoire plus pour les joueurs qui le connaissent moins, mais ça a l'effet inverse, parce que ça repose beaucoup sur l'histoire établie du jeu, parce que tu vois des personnages que t'as aucune idée c'est qui, puis qui te disent des affaires, puis avec encore une fois des voice-overs de dessins animés japonais dégueulasses.
C'est souvent le cas.
C'est ça, puis encore une fois avec des personnages féminins pas crédibles qui... Ça en devient une présentation misogyne.
Ouais.
Ce que la fille elle-même dit, c'est terrible. Puis que c'était pas là dans la version japonaise ou dans aucune des autres versions qui est sortie, même ici après. Parce que tout ce qu'on a en réalité comme intro, c'est une espèce de vidéoclip sur une des tunes malades, évidemment, du jeu. Puis y a pas d'histoire avant. Fait que c'est une scène complètement inutile puis qui gâche la présentation.
C'est comme un intro d'animé, finalement.
Ah ouais, mais en 3D de cette époque-là, mettons, tu sais, en 3D pré-rendu de cette époque-là, qui est un petit peu ridicule. Mais cela dit, le jeu vaut la peine. La version PS2 n'est pas très dispendieuse. C'est autour de 25$ sur Price Charting pour une version box en PS2. Puis moi, c'est... tu sais, je connaissais la série Ease. J'avais joué à celui au SNES dans le temps, mais j'avais vraiment pas accroché parce que c'est clunky. Mais je l'ai pogné en PS2, je l'ai adoré. Puis c'est à cause de ça que j'ai comme fait « OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux jouer de cette série-là? »
Une fois que l'intro est passée, là, c'est...
Ouais, c'est... Ouais, puis du coup, t'es juste comme « OK. » Genre, t'as le gameplay, puis c'est vraiment différent. Bref, c'est ça. Fait que elle est quand même bonne. Mais évidemment, il y a la version PSP qui est dure à recommander. C'est le port le plus rough. Yep. Puis si je me trompe pas, port de Konami, la version PSP aussi. Tandis qu'après ça, on a eu sur PC la version originale japonaise qui ont finalement mis la traduction, puis qu'on a la version intégrale comme il se doit, puis qui est de loin la version la plus facile à recommander, puis est aussi disponible sur Steam. Donc, facile à très très facile d'accès et ça vaut la peine. Elle a été patchée de la même façon que Out in Ferghana, donc le widescreen, puis le support de toutes les cartes vidéo modernes, etc. Et le dernier, c'est Ease Origin. C'est le même moteur. Un peu différent des deux autres. On joue pas le personnage qu'on joue tout le temps dans la série, Adol. On choisit entre deux personnages. Puis il y a même d'autres choses qui se débarrent à travers le jeu. ça change beaucoup le gameplay selon le personnage qu'on choisit, parce qu'il y a un personnage qui, plutôt que se battre à l'épée au contact, combat de mêlée, comme on a à Dawn habituellement, on a un personnage qui tire de loin. Ça devient quasiment un shooter d'exploration. C'est intéressant. C'est le moins bon des trois, mais ça reste un très très bon jeu aussi à explorer. Puis comme je disais, encore une fois, il est disponible sur Steam. C'est pas mal la seule version de ce jeu-là. D'ailleurs, je pense qu'il est juste sur PC. Ou en tout cas en anglais, définitivement juste sur PC. Puis c'est ça. Sur Steam, c'est les meilleures versions des trois. Fait que c'est là qu'on le prend, tout simplement. Donc, je vais finir sur un extrait d'une de mes pistes préférées du jeu. À part celle du dernier boss que je voudrais pas vous gâcher, que je vous laisse découvrir. Donc, on va y aller avec le thème du Castle Wallenstein.
Sur la semaine. Donc, le 4 février, Facebook a fêté son 12e anniversaire. Et pour souligner l'occasion, ainsi que le mois de l'amour et de l'amitié, le populaire réseau social a choisi de célébrer en soulignant les amitiés réelles avec de courtes vidéos affichant les amis proches de ses utilisateurs. Vous avez probablement tous vu passer les 10 vidéos sur votre wall et peut-être même visionner et d'achou partager le vôtre. Depuis 2011, Facebook affirme avoir doublé le nombre d'usagers mensuels sur le site, atteignant jusqu'à 1,59 milliard de connexions. C'est pas étonnant que l'entreprise affirme aussi avoir atteint des profits records en 2015. Fait intéressant, le site affirme aussi que durant la même période, le degré de séparation entre ses usagers est passé de 3,74 à 3,57. Donc, chaque année, le monde en devient constamment un peu plus petit et les gens sont de plus en plus proches les uns des autres, du moins virtuellement, à défaut de l'être physiquement. Avec un accès si facile à tant d'amis... supposément si proche, c'est difficile de croire que certains vont passer la soirée du 14 février ou ont passé la soirée du 14 février en solo. Il n'y a aucun mal là-dedans, loin de là, surtout que la Saint-Valentin, comme la majorité des jours de fête durant l'année, est devenue énormément commerciale. Mais pour ceux qui cherchent la compagnie ou à s'échapper des soirées en solitaire, les sites de rencontres sont légion et chacun se targue d'être l'hôte de milliers de célibataires qui n'attendent que l'occasion de faire votre rencontre. Il me semble pourtant que le site avec le moins de célibataires en ligne devrait probablement être celui qui est le plus efficace dans son rôle.
Nous autres, on a trois célibataires. Yeah!
Food for thoughts. Donc, dans l'Amérique cette semaine, je me suis décidé de faire la réflexion du... On parle de gaming, on veut parler un thème de la Saint-Valentin, de l'amour. Je dis, on va parler du Game of Love. Donc, je me suis permis de faire un peu de recherche pour voir si un gamer pouvait trouver l'âme sœur ou au minimum un one night en ligne. Donc, je me suis intéressé aux différents sites de rencontres qui se disaient destinés aux geeks et aux nerds de ce monde.
Vraiment essayé par toi-même? Ouais, ou c'était quoi la recherche?
Je me suis promené.
C'était quoi la métrique du succès, mettons?
Ben, j'ai lu des articles beaucoup, j'ai consulté des reviews de certains sites.
Ouais, c'était pas du journalisme d'investigation. Ouais,
c'est ça. T'allais undercover dans tous les sens.
J'ai pas brisé des cœurs non plus.
T'es donc bien gentil.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'on pense à un site comme Geek2Geek, avec un 2 mieux, Geek2Geek, qui se vante d'être le meilleur endroit en ligne où rencontrer des geeks avec plus de 200 000 abonnés, qui catégorise ses utilisateurs selon des champs d'intérêt comme online gaming, Monty Python, Tolkien et Star Trek.
Donc 200 000 utilisateurs, dont 12 filles.
L'histoire, en fait, c'était comme un... 40% féminin, je pense.
Avec 75% de comptes inactifs.
Peut-être, l'histoire ne le dit pas. Ou au fameux site Otaku Booty, qui se veut un site de rencontre pour les fans d'animé, de manga, de gaming et de cosplay. Et de Dallas. On voit que définitivement, il n'y a personne qui est laissé à l'écart dans le jeu de l'amour, en fait. Surtout en échange de la modique somme de 15$ par mois pour avoir accès aux fonctions de message entre utilisateurs. Il y a certains sites qui sont même beaucoup plus pointus dans leur choix de public cible. C'est le cas notamment de Cupid Tino. qui s'adresse exclusivement aux fans des produits Apple. Le site il offre un design qui est inspiré des interfaces minimalistes de iOS et OS X et il est accessible seulement depuis un appareil mobile Apple.
Ah ben oui.
Je t'en ai.
La philosophie derrière le site de rencontre, c'est que les gens qui utilisent les produits d'Apple ont habituellement plusieurs points ou hobbies en commun. Ça serait, selon le site, habituellement des gens qui sont plus créatifs comme des artistes ou des musiciens. Donc, à ce que j'ai pu comprendre, c'est finalement un site qui est réservé à l'usage exclusif des hosties gratuites de guitare, donc aucune chance d'y rencontrer le matricule 728.
Ah ben, dans ce cas-là, c'est un point positif.
Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans Ease, Out in Fergana...
c'est un bon segway, ça. Donc, un autre site qui s'appelle Sweet on Geeks, quant à lui, se décrit comme, en anglais, A Space Where Grey Matters. Donc, j'ai immédiatement redouté avoir découvert par mégarde un site de fanfiction sur les aventures de Christian Grey, mais il semblerait que le jeu de mots porte plutôt sur le cerveau. Donc, en tout cas, je me suis pas inscrit pour aller vérifier, donc je me garde le bénéfice du doute.
Ou des fans de Grey's Anatomy. Ok.
Possiblement, mais encore là, ça, je verrai un lien avec ça encore.
Encore une fois, je ne vois pas.
Ne regardez pas ça. et finalement, c'est sûr que c'est difficile de passer à côté du très populaire OkCupid, qui est particulièrement populaire auprès des jeunes et qui est supposément fréquenté par beaucoup de geeks. Puis de voir ça, en parlant de geeks, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de sites de rencontres spécialisés parce qu'on est geek? Pourquoi est-ce qu'une fois de plus, les geeks et les nerds doivent être marginalisés puis isolés du reste de la population quand vient le temps de chercher l'amour?
Pourtant, on voit ces mêmes sites de porn que les autres.
Hein? Oui.
Exactement. On regarde pourtant les mêmes choses. Mais, mais je pense que pour répondre à cette question-là, il faut commencer par définir c'est quoi un nerd ou c'est quoi un geek, en fait.
On a combien de temps, là?
tout d'abord, je pense que la distinction entre les deux termes est vraiment mince parce que les caractéristiques s'entrecroisent tellement souvent qu'à toute fin pratique, les nerds et les geeks, ça représente grosso modo le même type de personnalité. Donc, je propose la définition suivante, puis libérez-vous les gars de commenter ou de pitch-in si vous n'êtes pas d'accord.
Parce qu'on sent vraiment pas, qu'on n'a pas le droit le reste du temps.
Non, c'est ça.
Non, mais là, je vous ouvre la porte.
Imagine, fait qu'on ne dira rien.
Donc, selon moi,
c'est trop de pression.
Ce qui est considéré geek ou nerd, ça serait d'un trait de personnalité propre à ceux qui cultivent une passion active envers une activité. Donc, les geeks et les nerds, ça se voudrait un peu les étiquettes qu'on donne aux passionnés de science-fiction, de gaming et de technologie.
Bon, auprès de geek ou nerd,
de n'importe quoi d'autre, directement.
Geek, etc.,
Mais la grande majorité, cependant, de ceux qui cultivent d'autres passions semblent échapper au poids des étiquettes. Comment est-ce qu'on nomme un passionné de modèle à coller ou de scrapbooking?
Un sniff de colle.
Dans les deux cas.
Mais dans toutes mes recherches...
Non, en fait, c'est un sniff de colle et une matante.
mais dans toutes mes recherches, j'ai malheureusement pas trouvé de site de rencontre pour les amateurs de mots croisés.
Scrapbook date.
J'ai vraiment cherché. J'ai vraiment
scrap
cherché.
Date.
Il y en a plusieurs quand même.
Puis c'est ici, selon moi, que la culture geek rencontre son plus grand fléau, en fait. Parce que l'étiquette du geek, elle devient souvent très péjorative. Sans être littéralement une insulte ou un facteur de marginalisation important, l'étiquette geek, ça cherche à définir celui à qui on l'attribue, selon une série d'habitudes et de comportements bien précis qui ne définissent pas nécessairement bien la personne. Dans l'œil de la société, le geek vient malheureusement avec un code vestimentaire bien précis, un tan de néon de sous-sol, puis une hygiène généralement douteuse. Trois caractéristiques qui, en faisant abstraction du fait que Matt, on enregistre présentement dans ton sous-sol, ça m'interpelle pas vraiment.
Ouais, c'est pas le sous-sol de mes parents, c'est juste ça la différence.
C'est pourquoi, personnellement, je rejette l'étiquette de geek, puis je qui représente juste en fait une fraction de ma personnalité puis de mes champs d'intérêt. Puis je tiens à inviter tous ceux et chacun à ne pas hésiter à faire valoir les autres facettes de leur personnalité autant dans leur quotidien que dans la rédaction de leur profil sur les sites de rencontres. Tout comme les amateurs de canage, les champions de curling et les fans finis de Brad Pitt ne se cachent pas, eux, derrière une étiquette, notre passion du gaming et de la techno ne devrait pas, nous non plus, être une façade suffisante pour nous décrire.
Ah, la Saint-Valentin. J'ai jamais été vraiment un grand fan de Saint-Valentin. Je sais que c'est une fête qui est le théâtre de plusieurs événements marquants, hein, de plusieurs premières fois. Puis en ce lendemain, parce qu'on est...
As-tu du massacre, la Saint-Valentin?
non.
Googlez ça. Hein? C'est...
mais en ce lendemain de journée des petits anges tout nus et des pétales de rose...
Excusez, il faut que je continue avec mon aparté. Mais j'imagine juste, genre, le lendemain des stats sur Pornhub, ils devraient faire le massacre de la Saint-Valentin pour voir combien de monde se sont maltraités eux-mêmes le 14 au soir.
Je suis persuadé que ça se trouve facilement et que ça sera publié. Parce qu'il n'y aurait pas d'en publier. Là. La semaine
stats,
passée, là, qu'il y a eu.
À cause de.
La tempête.
Exact,
là.
À cause de la tempête, ils ont sorti des stats.
Les stats ont monté. Voilà.
Quand tu restes en dedans, tu portes pas de pantalon.
Voilà. Pourquoi porter des pantalons quand on est en dedans?
Ou quand tu conduis. Hein? Ou quand tu conduis.
Je peux savoir ça sur un chandail.
Tout est possible.
Alors oui.
Donc, en ce lendemain de journée des petits anges tout nus et des pétales de rose, j'ai eu envie, moi aussi, de vous partager ce grand secret qu'a été ma première fois.
Tu peux-tu t'occuper du soundboard, Jeff? Moi, y aller.
Comme plusieurs, ma première fois, c'est pas déroulé à la maison. Hein, j'étais tout jeune, j'étais chez un ami dans un sous-sol, probablement sur un proverbial divan brun auquel notre podcast fait référence.
Ça vient de prendre un tout autre sens.
On devait travailler sur un exposé oral pour l'école, mais comme trop souvent dans ces situations-là, la procrastination était au rendez-vous.
Et le seul oral n'a pas été l'exposé.
Il m'a dit qu'il allait me montrer quelque chose. Et à ce moment-là, je savais pas que ça allait vraiment changer ma vie. Donc il me l'a montré et j'ai tout de suite capoté. Pas besoin de vous dire que ça aurait été l'exposé oral le moins préparé de l'histoire jusqu'à ce que je commence à podcaster. De retour chez moi, j'ai passé des heures et des heures à jouer avec. Fallait quand même que je fasse attention. À l'époque que je partageais ma chambre avec mon frère, je voulais pas qu'il me fasse prendre tôt le matin ou tard le soir. Au début, j'étais maladroit. Je comprenais pas tout non plus. Mais je m'informais, j'apprenais, je m'améliorais. On dira ce qu'on voudra, ça m'aura quand même beaucoup servi à l'école par la suite.
Nous avons la technologie, nous pouvons le reconstruire.
Mais quel plaisir, quel bonheur. Ça m'a donné envie d'explorer, de voir autre chose. Je suis allé au club vidéo, j'avais pas le choix, c'était avant que j'ai internet. Ça aurait été des belles années, des découvertes, des apprentissages, et tout ça à cause d'une première fois, d'une première session de RPG, qui m'aura un peu défini comme gamer. Merci, Chrono Trigger.
J'imagine juste Danny qui se touche sur cette tombe-là.
Bon, après ce touchant hommage, un peu de contenu quand même.
Ce touchant hommage.
Cet hommage touchant.
Je l'avais même pas vu quand
touchesque.
Touchesque. Mais la Saint-Valentin reste quand même une fête très commerciale, tu l'as dit, Jeff aussi. Puis question de compenser un peu, j'ai décidé de vous présenter trois jeux indépendants, totalement gratuits, quoique un peu louches, qui, avec un peu d'imagination, peuvent être liés à la thématique de la fête des amoureux.
Bon, écoute, si tu me donnes du temps tout seul, pas mal tous les jeux peuvent être liés à la thématique de l'amour.
Je pense que j'allais dire tous les jeux peuvent être un peu louches. Là, mais...
Ben, c'est ça. L'amour de moi-même, au pire. Là,
je commence avec un jeu qui s'appelle How Do You Do It? Un petit jeu indépendant développé par Nina Freeman et Emmett Butler. Je vous prends du setting.
Vous voyez pas la face de Jeff, mais si vous cherchez dans le dictionnaire à côté de Perplex, vous allez trouver sa photo.
Attends, j'ai pas parlé de setting encore. Je pense que sa face va s'améliorer. Setting, tu joues une petite fille de 11 ans qui vient de voir la scène d'amour dans Titanic et qui se pose beaucoup de questions. Sa mère part faire des commissions puis elle décide avec ses poupées Barbie et Ken de tenter de comprendre comment on fait l'amour.
Là, on parle de scène dans l'auto, hein?
Ouais, avec les vides bruits et tout.
Ouais, moment marquant de l'histoire du cinéma.
Ouais, ouais.
Sure. Je
présentement, moi à l'époque, je préférais la scène du dessin, là, parce qu'on voyait des boobs, là, mais ça c'est.
Je suis content qu'on ait parlé.
Je vous partage des choses aujourd'hui.
Ben oui!
Niveau gameplay, dans le fond, là, quand on joue à ce jeu-là, t'as une poupée nue dans chaque main. T'as la poupée Barbie et Ken. Puis ce que tu peux faire, c'est faire des rotations aux poupées, là, comme autour d'elles-mêmes. Puis tu peux les faire bouger de haut en bas, de gauche à droite, les éloigner, les rapprocher. Puis en gros, ben, tu te mets à cogner les poupées une sur l'autre là, dans différents sens pour essayer de comprendre c'est quoi faire l'amour. Puis tu vois la petite fille qui se pose des questions, tu sais, par rapport à pourquoi est-ce qu'il y a de la buée dans les fenêtres, comme par rapport au câlin, au hugs que les personnages se donnent, puis c'est quoi la différence avec ceux que je donne à ma mère. Bref, on revient un peu à la base de... Tu sais, on laisse de côté là, la porno, le gros sexe, se mettre dans la peau d'un enfant qui sait juste pas vraiment c'est quoi faire l'amour. Puis dans le fond, tu fais ça pendant quelques secondes, puis là, à un moment donné, t'entends...
L'amour,
le...
ça? Hein? De l'amour que ça pendant quelques secondes.
Oui, ben oui. Comme plusieurs premières fois.
Bon, ben étrangement, ta première fois dans un RPG, ça va pas durer quelques secondes.
Non, ça va durer quelques secondes. Ça a été bien long, ça. Surtout quand mon anglais était pas... Donc, tu fais ça pendant quelques secondes, puis là, t'entends au loin l'auto qui revient. de ta mère. Puis là, tu vois la petite fille comme gênée, qui a les petits joues rouges, qui cache les poupées derrière elle. Puis là, il y a un écran noir qui dit, you had sex 87 times avec un point d'interrogation. Puis tu t'es pas fait pogner. C'est juste ça le jeu. Il n'y a pas grand gameplay, mais c'était comique. T'sais, c'est un petit côté intéressant. Pour ceux qui ont le goût d'essayer, là, c'est sur le site ninas16.so / how do you do it.
Un peu, là. Okay, t'as une petite fille devant toi, t'as deux poupées, tu frappes les poupées ensemble, puis quand sa mère arrive, il y a un message qui dit combien de fois t'as eu du sexe pendant ce temps-là.
Ouais. Ben, c'est dans la tête de la petite fille, elle comprend pas ce qui se passe, elle essaye de...
C'est juste moi qui trouve ça louche.
Je lui ai dit que c'était des jeux un peu louches, hein. Je m'en suis pas caché. Voilà, ça c'était pour le premier.
Oh, une chance tu travailles pas avec des enfants au moins.
Hashtag perd sa job. Puis attention, là, on comprend que je change complètement de style de jeu. Je délaisse le côté innocent et naïf de l'amour de la Saint-Valentin pour aller vers le côté vraiment plus adulte, mettons, pour vous parler de Love Hotel. Love Hotel, petit jeu développé par Three Silly Hats, une petite erreur de frappe ici. Three Silly Hats, un groupe d'étudiants universitaires australiens. Pour décrire le jeu, là, je vais citer James O'Connor de games.on.net qui dit « Tiny Tower with far, far more sex ». Donc, c'est un Tower Sim, un jeu de simulation qui se déroule dans une tour, dans un building. Moi qui ai beaucoup, beaucoup joué, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop joué, en fait, à Tiny Tower puis Tiny Tower Star Wars, ça tombait dans mes cornes, ce genre de jeu-là. Tu te retrouves à gérer un Love Hotel, donc un hôtel de passe, là, un hôtel où les chambres sont louées à l'heure, un hôtel pour... Donc, tu peux construire des chambres avec différentes thématiques. Tu commences avec la chambre pour faire du spooning, la chambre qui s'appelle Missionary.
Ou est-ce que tu... C'est juste avec des petits noirs, c'est ça?
L'histoire le dit pas. Tu peux aussi construire...
Ça passe pas, ça.
Moi, j'aimerais mieux continuer puis penser à autre chose. Tu peux aussi construire des armoires à balais, des distributrices de bouffe, tu peux engager des valets, des concierges, des réparateurs, bref, tu gères ta patente, tu gères ton hôtel. T'as des visiteurs qui...
Non, mais attends une minute, t'engages des concierges, puis tout, dans le fond, tu fais des porn, c'est quoi?
Ben, en fait, les gens, ils viennent vraiment louer une chambre pour faire... ils viennent louer une chambre, c'est pour...
Oui, non, get it, mais c'est que j'aime, tu prends un concierge, c'est quoi, pour avec les clients?
Non, je te l'explique.
Okay, c'est pas juste des costumes, là. Non, c'est des ça. Employés.
C'est des employés, tu loues des employés. Okay. Tu payes des employés là, qui font des choses, là, qui font de la job. Dans... Okay. Parce qu'on se rappelle que c'est un simulateur d'hôtel, fait que t'as à gérer tout ça aussi.
Tu peux allumer des blacklights pour voir.
Non, mais presque.
Oh, hey!
T'as des visiteurs qui viennent, des couples là, que tu dois pouvoir amener à une chambre. Donc, c'est pour ça que t'engages des valets qui vont les guider vers une chambre. Puis les personnages vont utiliser la chambre. Puis quand ils s'en vont, il faut vraiment que le concierge passe. Puis il y a besoin de produits nettoyants. Donc, c'est pour ça les armoires à balais qui stockent les produits nettoyants. Puis, des fois, les gens ont faim. Hein, c'est pour ça qu'il y a des distributeurs de bouffe. Puis, des fois, tu découvres qu'ils ont d'autres besoins à mesure que le jeu avance. Par exemple, d'avoir un condom ou de la vraie bouffe avec une salle à manger et tout ça. Puis, je dis que les gens utilisent la chambre, c'est parce que quand ils s'en vont, c'est des calices, là. Genre, les vitres sont pétées, les rideaux sont arrachés. Puis là, le jeu, au niveau visuel, c'est un jeu de NES, là. C'est un jeu 8 bits. Mais vraiment, quand ils s'en vont, ils ont tout démoli, là.
Mais tu vois quoi pendant qu'ils sont là?
La porte est fermée puis il est de cœur.
Après
ça, tu vois la chambre qui est comme détruite. Là. C'est assez comique. Dans le fond, tu gères tes ressources, tu gères tes employés, ton fric, ta facture d'électricité là, en fonction de ce que tu as.
Facture d'électricité.
Ben, vraiment, c'est l'élément qui t'enlève du cash. T'sais. Ça prend un élément comme ça de gameplay. Puis c'est assez bien fait au niveau de gameplay. Là. C'est assez engageant. Tu veux que tout soit correct, tout fonctionne bien. Tu veux avoir assez de staff pour que... Il y a assez de valets pour que les gens n'attendent pas, parce que si les gens attendent trop, ils s'en vont pas contents. Tu veux avoir assez de staff de maintenance pour nettoyer les chambres, parce que sinon les gens attendent trop et ils sont pas contents. Tu vas avoir un réparateur qui va réparer ta machine distributrice de bouffe ou de condom si elle pète, parce que sinon les gens n'ont pas ce qu'ils veulent. Puis en gros, c'est un peu ça. Faut que tu restocks aussi tes armoires à balais, faut que tu restocks tes machines distributrices. Puis c'est un peu ce que tu as à gérer. Tu construis des étages, tu peux soit aller vers le ciel en faisant un building ou aller creuser en sous-sol. Puis un mix des deux, parce que plus tu vas haut, puis plus tu vas bas, plus ça coûte cher. Là, un gameplay assez classique. Fait que dans le fond, ça t'amène de l'argent quand les clients sont contents. Ça t'amène du prestige aussi quand les clients sont contents, qui fait monter la barre de progression. Au début, tu commences un hôtel 1 étoile. Genre un 3 rats, là. Puis ça monte vers le 2 étoiles, puis tout ça. Puis à chaque fois que tu montes une étoile, ça unlock différentes pièces. Genre quand tu arrives 2 étoiles, tu peux faire des chambres avec une thématique balloon.
C'est juste, c'est pour tout le monde qui aime ça, fourrer en écoutant 99 Balloons.
Tu peux débarrer la machine à condom aussi, là, à ce moment-là. Je trouve ça plate que la machine à condom arrive à 2 étoiles. Mais ça donne une petite idée aussi du motel cheap que t'es quand t'as 1 étoile.
C'est sleazy.
Tu te retrouves à avoir des clients aussi qui veulent un type de chambre en particulier. Fait que tu vas avoir différents types de chambres. Il y en a avec une thématique... tropical, mais on est en débarrer une qui est une thématique genre Heavens, là, avec des petits nuages, des croix, puis c'est space, pour vrai, il y a un petit quelque chose de très drôle là-dedans. Tu peux, comme je disais tantôt, t'engager un chef, construire une cuisine pour avoir de la vraie bouffe, puis là, les gens, ils vont se la manger, puis tout ça. Tu peux aussi engager éventuellement un gars qui restocke ton affaire tout seul, fait que t'as plus besoin d'y penser. Il se promène avec son petit chariot pour restocker. C'est assez drôle. Puis tu peux même te ramasser des fois avec des gens qui décident d'aller visiter une de tes armoires à balai. Hein, puis il y a un achievement lié à ça. Puis là, l'armoire à balai, elle ferme, puis il y a des petits cœurs. Puis pendant ce temps-là, tu peux pas aller chercher le stock dedans ou la restocker.
Pourquoi payer pour une chambre?
Bref, le gameplay est assez classique dans le jeu de Tower Sim, mais en même temps qui est amusant puis avec un petit côté humoristique qui est le fun. Visuel, comme je disais tantôt, c'est vraiment 8 bits rétro. Tu pars le jeu dans le fond, puis il te demande de. T'as une manette de NES finalement qui est là pour te dire quel bouton mettre où. Fait que tu décides quel bouton va être sur ton keyboard, là, à moins que t'aies une manette de NES USB pluggée. Là.
Comme Shovel Knight fait la même chose.
Okay.
Quand il te fait mettre ton layout de boutons, là, vu qu'il peut pas être sûr que tous les boutons sont assignés pareil, t'as vraiment une manette de NES, puis là t'as le bouton qui blink.
Fait que c'est un peu le même concept là-dessus. Ouais. En même temps, même dans le visuel 8-bit, il y a beaucoup de diversité. Puis ça, c'est une affaire que j'ai beaucoup aimé. Là. Ça, des petits couples de bonhommes 8-bit. Puis là, t'en vois qui sont clairement des couples hétérosexuels, des couples homosexuels, autant hommes que femmes. Puis t'as des bonhommes aussi de différentes ethnies. T'sais. Bon, dans la palette de couleurs de peau liées avec le 8-bit, mais on comprend.
Des bleus, des roses.
Voilà. Non, mais éventuellement, quand tu finis par descendre assez creux dans le sous-sol, tu finis par unlocker une entrée de ton hôtel qui va directement en enfer. Puis t'as des petits démons. Qui viennent visiter. Puis eux, ils utilisent seulement certaines pièces. T'sais, genre la chambre Evans, là, c'est une de ceux qu'ils utilisent. Puis là, la thématique chocolate moustache, là. M'en m'en c'est quoi, là?
Ah! Excellent!
Vous avez dit qu'on changeait de style, là. Puis quand tu vas en hauteur, t'arrives à un certain niveau où est-ce que c'est un genre de race de bird people, là, qui sont verts, là. Qui viennent. Puis quand tu vas encore plus loin, t'as des astronautes qui peuvent venir. Puis eux aussi, là, ils ont certaines pièces seulement qu'ils utilisent. Donc, c'est très, très drôle au niveau visuel. Puis même au niveau audio, c'est une petite tune 8 bits, mais qui est assez catchy quand même.
Ok, vraiment,
ça loupe. Ça loupe. Mais le pire, c'est que j'ai joué quand même assez longtemps, là. Puis. Tu finis quand tu t'aimes quand même pas de la petite toune qui loupe, mais c'est quand même bien. C'est un jeu qui...
Ça s'attire un peu de la polo bass avec le petit son qui ressemble à un saxophone.
Ouais, c'est ça. C'est
presque c'est au niveau de Ease de tantôt. Là.
Ben ouais, pareil.
Mais ben, je parlais de la vieille version quand même.
Ah, pas moi.
Ah. Donc... On va avoir dans la tête. C'est un jeu quand même assez court, là, peut-être une heure et demie, je dirais, pour vraiment comme te rendre maxé, là, tout avoir le building, le cash au maximum et tout ça. Peut-être une heure et demie, comme je l'ai fait au complet parce que j'ai vraiment embarqué. T'sais, je voulais juste tester chacun des jeux dont j'allais parler. Lui, j'ai fini par le faire au complet parce que c'est le fun. Puis il y a un petit côté humoristique qui est amusant. Donc, sérieux, je vous le conseille juste pour découvrir les autres pièces dont j'ai pas parlé puis pour voir aussi les pièces dont j'ai parlé, là, mais qu'on les voit pas visuellement. Ça vaut la peine. Donc, sur le site 3cityads.com/lovehotel, petit jeu gratuit aussi. Là, qui,
on mettra le lien dans les notes du pod et sur Twitter, Facebook.
Voilà. Je finis avec un autre jeu qui revient à la base de la Saint-Valentin cette fois-là, hein, qui est une bonne occasion pour avoir une date pour ceux qui n'ont pas déjà un couple ou ceux qui ont un couple qui veulent une date. Là. En tout cas, moi, je ne juge pas personne. Alors, on a tous déjà eu une date dans notre vie qui s'est vraiment mal terminée. Ben, dans le jeu Save the Date, qui est le troisième jeu dont je vous parle, ça nous fait oublier totalement nos dates qui ont mal été. C'est un jeu là, style Choose Your Adventure en texte, là, avec un visuel assez intéressant, là, mais qui est surtout là pour avoir un visuel, parce que la majorité du gameplay se fait avec des interactions en texte. C'est un jeu où tu tentes tout simplement d'avoir une date avec une fille. Hein, c'est la base de ce jeu-là. Le jeu commence, puis ton cellulaire, là, un bon vieux flip phone qui sonne, puis quand tu réponds, c'est la fille qui te propose d'aller souper, puis là, t'as des choix pour aller à différents endroits, puis tout ça. J'ai pas joué énormément. De toute façon, je voudrais pas parler de tout ce qui se passe, parce que comme c'est un jeu en texte, tu veux pas non plus vendre toutes les punches. Mais je vous parle des quelques dates que j'ai vécues pour vous donner une idée du style de jeu que ça donne. Donc, pour donner la première date que j'ai proposé d'aller manger du thaï. Fait qu'on s'en va au resto. Là. L'image change, t'es un genre de resto thaï. Elle propose de commander un pad thaï. Je décide de manger la même chose. On mange. Elle pète une crise anaphylactique. Puis elle meurt dans l'ambulance. Game over.
Hey, on a tous déjà été sur cette date-là. Là.
Là, tu fais, OK. Fait que là, c'est là que tu comprends que la date peut vraiment, mais vraiment mal se terminer.
Non.
Fait que là, tu décides de recommencer hein, pour voir. Fait que je vous raconte ma deuxième date. J'essaie de faire le même début. Rendu au resto, il y a une nouvelle option qui n'était pas là avant, de dire à la fille, il y a des peanuts dans le pad thai. Fait que je dis, il y a des peanuts dans le pad thai. Fait que là, elle me raconte qu'elle est allergique, là, puis me raconte une histoire de quand elle était
petite. Finalement, t'es un time-traveling dater.
Ben, c'est une des possibilités, parce que là, après ça, qu'elle me demande pourquoi tu savais-tu que j'étais allergique, une des options que t'as, c'est vraiment de péter le quatrième mur, puis dire, ben, on est dans un jeu, puis j'ai reloadé ma save.
C'est ça, c'est la même personne, c'est ça.
C'est la même personne, là. C'est la même fille, là. J'ai oublié son nom, là, comme dans bien des dates.
Oh my god! Classy shit.
Vraiment. Hein. C'est quoi le nom de ma blonde, déjà?
Non! Oh.
Je me sens mal. Je fais une blague, je me sens mal. Je décide d'y aller all-in dans ce sens-là parce que tu peux faire, ben non, c'est une joke, là, j'ai pris une chance. T'sais. Puis je décide de continuer dans ce sens-là en disant, non, c'est un jeu, j'ai reloadé, nanana. Puis là, ben, y a une horde de ninjas qui a investi le restaurant qui a tué 12 personnes, dont ma date.
Oh. On a toutes déjà été sur cette date-là.
Sérieusement, là, moi, j'ai ri à haute voix. Ma blonde était en haut, puis elle demande, pourquoi tu ris? Je dis, je suis en train d'essayer un jeu, là, puis c'est juste vraiment trop n'importe quoi. Fait que je fais un troisième essai. J'essaie de faire un peu pareil, mais pas de briser le quatrième mur, d'esquiver la question en disant, oh, ben, tu sais, c'était. Je sais pas, là, je le savais pas, mais. T'sais. Puis là, elle se fâche que je réponde pas vraiment à sa question. Elle décide de partir du resto. Je la suis, elle sort dehors, on se fait frapper par un char. Ouais.
On est tous déjà été stylés, là.
Quatrième option, quatrième essai, puis c'est la dernière que je vous raconte. Là. Nouvelle option au début, de dire à la fille, hey, on devrait peut-être pas aller manger nulle part, c'est trop dangereux de sortir. Puis j'essaie d'y aller vraiment tout le temps avec l'option de dire c'est dangereux, on devrait pas sortir, c'est dangereux. La fille commence à me donner de la merde, puis il y a un avion qui se crash sur sa maison.
Ah, pas été studé.
Pas celle-là.
Non, pas celle-là.
Fait que là, j'ai arrêté. Je me
ça fait un peu de Donnie Darko, genre.
J'ai décidé d'arrêter là, mais sérieusement, je vais vouloir continuer un moment donné pour essayer de voir toutes les niaiseries qui peuvent sortir. C'est n'importe quoi.
Sais-tu si tu peux finir avec...
Ben, c'est ce que je me demande. J'imagine qu'il doit y avoir une façon de que ça finisse pas en mort atroce. En même temps, c'est aussi drôle d'essayer de voir toutes les différentes morts atroces que tu peux essayer de sortir là-dedans. Puis visuellement, ça vaut la peine. C'est assez beau pour que j'aie le goût d'y jouer. Fait qu'un petit jeu avec beaucoup d'humour, très très noir, mais qui va vous faire oublier hein, que la Saint-Valentin qui était hier pour ceux qui écoutent le pod, là, qui vous fera vous dire peut-être que votre pire date était sûrement pas si pire que ça, finalement. Donc, le site pour celui-là, le paperdino.com/save-date. Puis, je termine avec une mention spéciale à un jeu dont Mathieu m'a parlé quand je cherchais un peu de quoi parler pour la Saint-Valentin. J'ai mis de côté finalement parce que j'ai décidé d'y aller avec vraiment trois jeux gratuits, mais je veux laisser le jeu lui-même vous parler de en tout cas, on va faire une phrase qui tient. Le jeu Hateful Boyfriend, j'ai pas joué, puis je vais laisser juste avec un petit montage audio du trailer officiel du jeu. Ça vaut la peine, ça explique un peu ce que c'est. Pour que vous compreniez bien, là, parce que vous n'avez pas le vidéo devant vous, faut juste vous imaginer que celui qui parle dans le trailer que je vais faire jouer, c'est un pigeon qui est devant un micro.
Hey everyone, it's StinkyBeak2044. Thanks for watching the stream. Don't forget to subscribe and follow me on Twitter. This f***ing mic never works. Okay, just getting set up here to stream some Hateful Boyfriend, a game where you find love in a school for birds. Man, I can't believe this game exists.
Ah! You got any new seed yet? I'm starving!
Listen to the jerk in the chat asking me to stream some more Angry Birds. You can go to hell, you son of a bitch. I recommend getting it because I'm a bird and whatnot.
Sérieusement, ça a l'air extrêmement drôle. C'est vraiment un genre de dating Sims où tu joues un oiseau dans une école d'oiseaux. Là. Fait que ça rit un peu de tous les clichés de ce genre de jeu-là. Ça a l'air assez drôle.
Pour chacun des oiseaux, des pigeons en fait que tu rencontres, y a une description de l'espèce.
Puis, tu sais, un des bouts que j'ai coupé là, pour pas faire tout le trailer au complet, c'est vraiment, il dit, ah, je vais s'aider avec tel oiseau, tu sais, puis c'est des noms japonais. T'sais. On dirait vraiment qu'ils ont pris un jeu, un dating sim, puis ils ont mis des oiseaux à la place, puis ça a l'air assez comique. Il était, puis là, je sais pas jusqu'à quand, là, mais il était en vente sur Steam à genre 2,75. Là,
ouais, pour la Lunar Something Sale, là, sur Steam.
Donc, voilà pour mes jeux de Saint-Valentin.
Good show!
Donc, pour trouver nos derniers épisodes, divanquest.com, sinon pour du feedback, du hate mail, twitter.com/divanquest, facebook.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com. Je ne vous donne pas mon numéro de cellulaire, là, à part ceux qui le connaissent, vous pouvez aussi passer par là. Là, mais
semblerait-il
que je prends ça en direct. Là. Sinon, le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois au québécois, au rzoweb.com. Sinon, encore dans la playlist de Pod Québec au podquébec.com. Et sur iTunes, vous pouvez commenter, cliquer les petites étoiles. On n'en a toujours pas. Donc, qui sera le premier? Je me pose encore la question. Et on se revoit dans 2 semaines.